Ouais, mais je crois que c'est au moment de la signature. C'est au moment de la signature initiale.
Initiale.
Je dis ça comme ça, mais attention qu'il y a une durée de chantier un peu longue, donc je ne sais pas à quel moment vous prenez, mais les locataires, là, les gens arriveront dans les logements qu'en 2018. Pas en 2017.
Oui, c'est ça.
Oui.
Donc je ne sais pas quels sont, à quel moment vous prenez vos dates, mais en tout cas, l'entrée dans le logement, au plus tôt, ça sera en 2018.
Oui, mais tu signes avant.
L'agrément, de l'agrément.
Ouais. Bon, on a sollicité de voir la DDTM donc, qui va nous recevoir. On vous fera un compte rendu hein, par rapport à cela. Oui.
Vous votre avis de 14 et 16.
C'est ça.
Parce qu'une feuille de plus, ça
ouais, c'est
pas
changer
les choses. Et comme ça, je dirais, on aura la finalité.
Et
on
précisera. 2017,
elle
n'existe
pas encore.
Ben non.
Oui, mais la position 2016 sur les ressources 2015.
Sur les ressources 2015. Oui, c'est ça.
Je crois que c'est.
S'il y a d'autres questions.
Alors, la deuxième précision, c'était. Apparemment, nos banquiers, enfin, quelques-uns de nos banquiers, savent pas trop ce qu'ils veulent, ce que vous voulez dire par attestation de solvabilité. On nous renvoie
nous, des. Pas d'avoir la liste et des montants qui sont sur
oui.
Seulement une attestation de la banque précisant, donc effectivement,
s'il y a besoin d'une chose
et que le compte fonctionne correctement.
Oui.
J'en ai déjà en demeurant.
Oui.
Les deux dossiers, je les ai eus.
Ça dépend des banquiers.
Ils savent le
faire. D'accord.
Ça dépend des banques.
Ça dépend des banques.
Ça dépend des banques. Ça dépend des banques. Et nous, c'est uniquement par lequel le compte.
Oui,
il faut leur faire compte.
D'accord.
Je vais le rédiger. Oui, puis ici. Bien.
Ça y est, c'est parti. S'il y a d'autres questions à M. Masson, profitez-en, hein, puisqu'en fait, il ne va pas passer la séance avec nous.
Oui, j'avais demandé en fait au téléphone, effectivement, avec vous, si la somme maximale qu'on vous souhaitez mettre en fin acquisition, évidemment, c'était en fait en plus du loyer.
C'est ça.
Donc,
la part acquisitive, oui.
La part acquisitive, c'était. Il fallait qu'on se
positionne
sur ça.
D'accord. De toute façon, le loyer, lui, il est fixé en fonction, effectivement, des règles applicables au niveau PLS. Hein,
c'est ça.
Ah, donc, il est encadré. Par contre, évidemment, c'est de savoir un peu donc, chacun leur capacité. Donc, effectivement, c'est un genre.
Est-ce qu'on pourra avoir un rendez-vous individuel à ce sujet ou pas ?
Oui.
Comme on l'avait eu il y a.
Aucune possibilité. De toute façon, vous avez les coordonnées donc, sur le formulaire hein, téléphonique. Vous pouvez prendre la tâche en secrétariat. Et de toute façon, nous, on va se mettre en rapport. Déjà, on va les dossiers. Se mettre en rapport avec l'établissement bancaire, effectivement, qui est le crédit foncier, hein, qui pour l'instant est retenu donc, pour cette opération-là. Hein, puisque, dans le cadre de l'agrément, un organisme bancaire doit être en capacité de pouvoir faire des offres. Donc, pour les acquéreurs, même si ces offres, il fait, je dirais, pouvez-vous les décliner et prendre un autre organisme bancaire, hein, mais donc cet organisme sera chargé notamment d'étudier les dossiers individuels de financement propre à chacun. Alors, c'est pour ça que je collecte ces informations pour voir avec la possible qu'ils puissent regarder donc, effectivement, ces dossiers, les dossiers de côté, et ensuite prendre la tâche des uns et des autres pour examiner donc, les situations personnelles.
Merci.
On le voit dedans, la plupart, moi, c'est des PDF.
Le loyer, c'est 8 € du mètre carré. Le loyer, c'est
le loyer. Oui, je le vois essentiellement des PDF, mais éventuellement, s'il y a besoin,
le loyer est calculé, c'est combien par mètre carré et est-ce que ça inclut les parties communes? Pour dire combien on peut investir.
C'est dans l'ordre de 69.
Non.
C'est une simulation. On a un logiciel et pour par type de financement, donc PLS, hein, il y a un loyer plafond PLS et donc on fait notre simulation. Ça nous sort un loyer. C'est aux environs du 70 peut-être. Retenez-le comme ça, mais c'est pas le montant exact. Hein. On avait fait une.
Moi je me dis c'est à 20 ans.
8,70,
c'est pas le chiffre exact.
C'est pas le chiffre exact.
C'est le niveau PLS.
Et est-ce que ça comprend les parties communal.
Et ça ne compte pas la part organique.
Oui, mais
c'est non. Non, mais la cote-part liée à la salle. Justement, c'est ce dont on doit.
Ah, oui.
C'est l'objet de notre réunion du 23.
Ce loyer-là, effectivement, est le loyer propre à la partie individuelle.
À la partie, c'est-à-dire à la partie logement.
Ah, okay.
La partie mutualisée, pour l'instant, il faut qu'on sache comment on fait. Et on a demandé rendez-vous à la DDTM justement pour calculer ça parce qu'on ne sait pas faire. Aujourd'hui, on ne sait pas le faire. On sait le faire pour le vendre, on ne sait pas le faire pour le louer. Donc, il faut qu'on voit avec eux comment on va faire. Merci Franck. Donc, je vous cède la main. Je vous cède la parole.
Ouais.
Oui, directement. Donc, on est au complet avec les bureaux d'études, la maîtrise d'œuvre donc qui a préparé son intervention. Donc, on va démarrer par tout ce qui est partie commune, généralité, et puis on va décliner plus sur les entretiens individuels et tout ce qui est individualisation, donc au niveau des cellules de logement. Juliette, à vous. Comment ?
8,73.
Ouais, 8,73. Voilà. C'est actuellement le loyer plafond au mètre carré, avec les marges ou sans les marges locales ? Sans les marges. Donc c'est un peu plus de ça. Ouais, c'est compliqué. C'est compliqué. Vous avez un taux plafond PLS. À ce taux plafond, vous avez des ce qu'on appelle les marges locales qui sont liées à un certain nombre de services ou d'équipements qui viennent donner une valeur ajoutée à l'immeuble. Je prends un exemple. Le fait d'avoir un ascenseur alors que nous n'aurions pas une obligation pour l'ascenseur génère une marge locale. Le fait d'avoir une performance thermique qui est au-dessus du RT 2012, puisque là on est sur un bâtiment quasi passif, fait qu'on a une marge locale. Ces marges locales viennent sur le montant de base majorer légèrement le loyer. Ce qui fait que dans notre cas présent, ça nous donnerait un loyer un peu plus important du fait effectivement donc de la qualité du projet. Donc voilà. Puis ensuite, la part acquisitive, c'est la différence entre le prix de vente et puis quelque part le montant du loyer. Comment ? C'est ? Et là, on n'a pas en PLS.
Ah oui, en PLS.
En PLS. C'est compliqué, mais c'est pour ça qu'on a demandé précisément un rendez-vous à la DDTM pour pouvoir calculer tout ça, parce que c'est vrai que c'est compliqué avec les parties mutualisées. On sait faire pour la partie logement, pour l'instant, on ne sait pas faire pour la partie mutualisée. Donc on leur a demandé ce rendez-vous-là. À nous.
Donc aujourd'hui, donc on a travaillé nous pour vous préparer un PRO. Donc le PRO, c'est les plans qui vont servir à faire l'appel d'offres des entreprises. Donc dans lequel on a des plans et des descriptifs de tout ce qui va être réalisé qui vont servir ensuite à faire le suivi de chantier. Donc on ne va pas reprendre tout le projet parce que vous le connaissez. Hein, donc vous avez tous eu les plans pour voir sur vos logements, les corrections, les rendez-vous avec Marie-Pierre pour ce qui se passe dans les logements. Donc on va essayer de rester dans des choses un peu plus général que vos logements, c'est-à-dire qu'on va prendre des décisions sur chaque logement, particularité, pas particularité. Donc je vous propose, dans un premier temps, je vais vous parler des problématiques qu'on a, sur le bâtiment d'une manière générale et des interrogations qu'on peut avoir encore hein, sur des choses à décider ensemble. Et puis ensuite, on parlera des logements, mais on ne va pas parler du logement de chacun. Hein. On va parler des logements et des décisions qu'on doit prendre sur tous les logements ensemble. Et en troisième point, j'aimerais qu'on voit, alors s'il y en a qui sont pressés, vous pourrez partir parce que c'est plus technique dans le sens administratif, il faut qu'on prépare notre appel d'offres. Il y a des documents, des choses à faire, etc. Qui fait quoi, quand, comment. Voilà, donc hein, j'ai un peu listé toutes ces choses-là. Donc voilà, on n'est pas obligé de le faire en réunion collégiale. C'est un peu plus technique. Mais il faut quand même qu'on se mette bien d'accord avant. Alors, je vais commencer par rentrer dans le vif du sujet. On a une problématique dont on avait un tout petit peu parlé et qui se corse. C'est une nouvelle règle incendie qui demande que les sols des coursives soient par flamme pendant une demi-heure. Donc, par flamme, ça veut dire que le sol doit protéger de la flamme pendant une demi-heure. Donc, vous comprenez bien que les caillebotis, c'était plus possible. Donc on est obligé d'avoir quelque chose qui soit complètement fermé. On a donc réfléchi avec le bureau de contrôle de l'époque, parce qu'on a eu un changement, pas de bureau de contrôle, mais de personnes qui s'occupaient de notre dossier, ce qui nous a fait perdre beaucoup de temps, malheureusement. On a essayé avec le bureau d'études structure bois de voir si on pouvait réaliser ça en bois. C'est extrêmement compliqué, c'est parce que le bois, il faut le recouvrir par au-dessus, par en-dessous, par de tous les côtés, c'est extrêmement compliqué, on n'y arrive pas. On a trouvé une solution qui nous paraît être la plus simple, qui est de faire des dalles préfa en béton. C'est coupe-feu, il n'y a pas besoin de revêtement, ça répond à beaucoup de choses, donc on est parti sur cet élément avec une jonction entre la dalle de l'intérieur et la dalle donc, béton qui est ici, qui est en gris, avec un joint coupe-feu, hein, qui sont réalisables et en plus qui font un joint thermique entre les deux dalles. Donc on était presque contents quand on s'est rendu compte que de mettre ça en œuvre hein, nous pose plein d'autres problèmes, c'est-à-dire qu'autant avec des caillebotis, l'eau passait au travers, donc on n'avait pas de problème, autant avec du béton, l'eau ne passe plus au travers, donc il faut qu'on la récolte, qu'on protège nos pieds de bardages qui sont là, la règle demande qu'ils soient à 1 cm ici, qu'on récolte les eaux, donc il faut venir faire un égout. Et puis, au niveau de nos seuils, ça ne fonctionne pas du tout. Du coup, on n'arrive pas à régler entre ce joint coupe-feu, la porte-fenêtre, le seuil, la règle de l'eau qui demande que on soit 800, qu'il y ait une garde à l'eau de 8 cm. Tout ça, on n'y arrive pas. Alors, on arrive à cette troisième solution qui est de venir éventuellement rajouter un caillebotis au-dessus de notre support béton et qui pose un problème, même si on n'a pas encore résolu tous les problèmes techniques parce qu'on attend notre bureau d'études, pose un autre problème qui est un surcoût. Voilà, donc aujourd'hui on n'a pas de réponse à vous donner, donc parce que, donc comme je vous ai dit, on a eu un problème de bureau de contrôle, de personne qui a changé au sein du bureau de contrôle, et donc la nouvelle personne qui s'occupe du dossier a juste réussi à nous envoyer, avant de partir en vacances, un document nous disant ce qu'on n'avait pas le droit de faire, mais on n'a pas pu discuter avec lui de tous les points techniques un peu plus particuliers pour trouver une solution. On a rendez-vous avec lui jeudi prochain.
On est obligé d'avoir un joint entre la dalle et...
Alors, on
ne peut pas avoir la continuité.
Oui, mais alors on pourrait avoir la continuité au niveau du coupe-feu, mais on a plus thermique. On aurait un pont thermique monstrueux. On est dans un bâtiment quand même, ne l'oublions pas, un bâtiment passif. Donc on perd hein, en thermique. Avant, on avait un mur continu. Aujourd'hui, on vient avec juste un joint de 6 cm d'isolant, hein, un joint coupe-feu, mais aussi rupteur de pont thermique.
Hein. Et vous le portez comment alors? La coursive.
Alors cette coursive, on la porte avec du bois. C'est-à-dire qu'on est resté sur une structure bois parce que notre structure doit être stable au feu une demi-heure. Donc on continue à garder nos poteaux bois, des poutres bois qui seront fixées sur le béton.
D'accord.
Et sur ces poutres bois viendront être fixées.
D'accord. Et elles ne travaillent pas.
Là,
elles travaillent dans l'autre
sens. Ok,
ça marche. On les porte dans le sens de la longueur.
D'accord.
Pour ne pas essayer de pas avoir de poutres en façade, parce que ce qu'on veut, c'est que notre façade reste quand même identique.
Excusez-moi. Et puis après, il y a un problème acoustique.
Si on... Oui, d'accord.
Si on la...
Voilà, et en plus, il y a le plus bien acoustique. Ouais. Voilà.
Excusez-moi. Ouais. La dalle, la coursive n'a pas le droit de brûler, mais les poteaux, oui.
Les poteaux, alors un poteau, ça. Je vous laisse expliquer.
En fait, le flattage de la coursive est par flamme, c'est-à-dire qu'il empêche la propagation des flammes pendant une demi-heure. Et là, les poteaux sont distables au feu une demi-heure, c'est-à-dire que pendant une demi-heure, ils sont capables de permettre l'évacuation de l'ensemble des occupants des bâtiments.
Et pendant une demi-heure, ils ne s'écroulent pas.
Oui, mais si le feu gagne d'abord les premiers poteaux du bord,
pendant une demi-heure, tout le monde attend d'évacuer l'ensemble des
lieux. Oui, mais c'est plus de poteaux.
Non, ils sont dans une demi-heure ou tiens.
Calculé pour être tenu une demi-heure.
Ça, c'est une demi-heure.
Le bois.
Sachant que les tests qui sont faits en termes de combustion du bois sont faits à des températures extrêmement fortes. Donc, quand ils chargent l'enceinte, c'est des tas de palettes qui sont blindées. Donc,
le bois a une bonne stabilité au feu. Hein.
Meilleur que l'acier, hein, par exemple. Meilleur que l'acier.
On arrive à voir le comportement qu'on peut faire en structure.
Il est surtout calculable. La stabilité au feu du bois, elle est calculable. C'est-à-dire qu'on sait que, je ne sais plus combien c'est, tant de millimètres vont brûler par quart d'heure. Donc, on augmente la surface, on augmente le volume sur chaque surface de ce temps qui permet. Voilà, on connaît exactement le temps de combustion.
Une combustion de 0,8 mm par minute, on sait estimer la solution résiduelle.
Oui, bah pourquoi ne pas faire dans ce cas une coursive à bois puisque ça résiste une demi-heure.
C'est pas la même.
En fait, la stabilité au feu, c'est la tenue structurelle au feu, et le pare-flamme, c'est la capacité à arrêter les flammes.
En fait, on est plus pénalisant au droit de la coursive qu'au droit des poteaux.
D'accord.
En plus, par rapport à tout ce qui est l'eau, hein, parce qu'il y a le feu, mais il y a l'eau, hein, c'est qu'aujourd'hui, on doit répondre à énormément de normes tout au même endroit, c'est ça qui est très compliqué. Et donc, le bois en horizontal pose aussi un certain nombre de problèmes parce qu'il est étanche, il doit prendre l'eau, donc on doit le protéger. Mmh. Et on avait trouvé. Il fallait toujours rajouter quelque chose. On ne pouvait pas laisser le bois lui-même, comme ça, en marchant dessus, dans un bois plein. On peut le faire dans des lames de bois avec l'eau qui passe au travers, mais pas sur 1,50 m et 25 mètres de long. Ça, c'est pas possible. Il faut que l'eau passe au travers.
C'est ça, le bois fonctionne bien en terrasse si l'eau peut s'évacuer.
Mais là, on n'a pas le droit de faire de trous. Donc, c'est d'où, je vous assure qu'on a. On l'a tourné et retourné. Hein. On n'était pas fiers de venir vous annoncer qu'on allait faire des terrasses en béton. Hein. C'était. On arrive à ça parce qu'il n'y a pas le choix. On a essayé tout le reste.
Alors, ce qui est formidable, c'est que j'imagine qu'il y a des bâtiments qui ont été construits avec des structures comme ça avant cette nouvelle norme. Ouais. Et quid des responsabilités en cas d'incendie, on dira c'est ancienne norme, nouvelle norme.
C'est le cas. C'est par exemple la sismique, il y a 30 ans, la sismique, on n'en parlait pas. Hein, on a construit, nous, des tas d'immeubles. Je pense par exemple à Beaulieu, on a des immeubles avec des évidements dans la façade. On ne pourrait plus construire cet immeuble-là comme on l'a fait il y a 25 ans. C'est pas possible. Parce qu'aujourd'hui, il y a des normes sismiques. Votre bâtiment, il est aux normes à la date du dépôt du permis de construire. C'est souvent ce qui est pris. Hein, c'est ce qui est pris comme. On le sait pertinemment.
Là, pour vous dire, c'est. En fait, on n'est pas au courant de toutes les règles qui passent tous les jours, hein, parce que c'est tous les jours qu'il y a une nouvelle règle. Celle-là, elle était applicable pour un dépôt de permis. En avril 2016, je crois. Ouais. Et nous, on a un dépôt de permis en fin d'année, à quelques mois après. Mais on ne peut pas le savoir. Elles sortent comme ça, tout d'un coup, paf.
C'est vrai problème des normes.
Et tant qu'on n'a pas le nez dedans, on ne le sait pas, en fait. On n'arrive pas à anticiper. C'est inanticipable. Mais voilà, maintenant il faut y répondre. Donc je crois que.
Et c'est pour ça qu'il y a les bureaux de contrôle aussi qui sont là.
Voilà, les bureaux de contrôle, eux vérifient.
Voilà.
Parce qu'elles sont trop compliquées aujourd'hui. Plus personne n'est capable de connaître toutes les normes qui sortent tous les jours. C'est impossible, en fait. Donc chacun est capable de gérer dans son petit domaine les normes qui sortent à tel endroit et tel endroit. Parce que.
Si en plus vous avez des normes aujourd'hui qui se télescopent, qui s'opposent.
Oui. Ça crée de l'emploi. Pardon ? Ça crée de l'emploi, hein. Vérifier les normes.
Oui, non, mais ça pose des problèmes aussi.
Comme c'est contradictoire.
Et, non, mais... ça devient très compliqué.
Donc,
d'accord.
Le point important, c'est le surcoût.
Oui,
c'est ça qui est intéressant.
J'allais là-bas.
Voilà, oui.
Aujourd'hui, on a commencé un tout petit peu à regarder ces surcoûts avec monsieur la personne. Donc, s'il faut arriver à la solution Caïboti, alors aujourd'hui, on a déjà intégré le surcoût de la dalle, parce qu'on en parle quand même depuis longtemps. On l'avait intégré au moment de la PD. Hein, on avait dit, on n'est pas encore sûr, mais on pense qu'il va y avoir un problème. Donc ce surcoût, il avait été intégré à la PD. Aujourd'hui, ce qui n'est pas du tout intégré, c'est s'il faut qu'on rajoute un caïboti par-dessus. On arrive à une plus-value pour l'instant qu'on a un peu fait comme ça. S'il fallait vraiment mettre le caïboti, s'il y a beaucoup de complexité, on aura une plus-value de 39 000 euros.
Au lieu de 11, comme c'était.
Non, le 11 est déjà inclus.
Ah oui.
Hein, d'accord.
28.
On a, par ailleurs, il faut quand même un tout petit peu être positif, vu des choses avec le SPS, Sécurité, Protection, Santé, hein, donc c'est une autre personne qui vérifie la sécurité sur le chantier, avec lequel on a vu un certain nombre de choses qu'on avait prévues au départ et qui, du coup, on n'a plus besoin de les prévoir, qui sont entre autres l'accès à la terrasse. Accessible du toit, l'accès au toit. Donc nous on avait prévu des ouvertures, des trucs malins, des choses un peu compliquées. Pour lui toutes les interventions seront faites à la nacelle. Donc à chaque fois qu'il y a une intervention, ce sera toujours fait à la nacelle. On a moyen de mettre des nacelles tout autour dans le terrain, de passer autour, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Donc toutes les interventions étant faites à la nacelle. Donc là on a une moins-value de 10 125 euros.
TTC ou hors-taxe ?
Hors-taxe, je ne parle pas hors-taxe.
Ceci dit, quand on fait intervenir une nacelle, c'est un certain coût. Donc 10 000 euros, ce n'est pas grand-chose pour des nacelles.
Mm-hmm. Oui, mais parce que la nacelle, vous allez être obligé de la faire intervenir pour plein d'autres choses.
Oui, d'accord, mais je veux dire les 10 000 euros.
Parce que là, c'est 10 000 euros que pour nettoyer le chéneau. Que pour le nettoyage du chéneau, hein, de l'anneau. Hein. 10 000 euros, c'est que le nettoyage de l'anneau. Alors qu'à un moment donné, il y aura une réflexion à avoir plus générale sur des interventions qu'il peut y avoir en façade, sur une fenêtre, sur les égouts à vider, sur les. Ça, notre accès en terrasse, il ne marche pas. Il faut aller partout. Donc, comme vous allez être, de toute façon, vous serez obligé peut-être une fois par an d'avoir une nacelle qui vient pour vider toutes les gouttières, etc. En même temps, il fera la nuit. Hein, parce que là, les 10 000 euros, c'est que la nuit. Voilà. Et puis après, ben, bon, j'espère qu'il n'y aura pas, mais s'il y avait un problème sur l'étanchéité, voilà, après, c'est pareil, c'est avec une nacelle. Comme vous le dites, normalement, il ne devrait pas y en avoir. Dans cette continuité de discussion sur ces coursives, hein, qui posent vraiment beaucoup de problèmes, on a une autre question dont le bureau de contrôle n'est pas clair du tout sur les réponses qu'il nous donne. Donc c'est une réponse qu'il nous donne oralement, mais qu'il n'écrit pas, qui est que les façades le long des coursives, donc ces façades ici, soient coupe-feu une demi-heure sur un mètre. Le PVC n'est pas coupe-feu une demi-heure. Donc ça oblige à passer les baies des coursives en bois. Donc vous imaginez que ça c'est une plus-value. On a une autre solution, si cette règle est applicable, on n'est pas encore sûr qu'on soit obligé d'appliquer, si cette règle est applicable, on a une autre solution qui est de passer les portes-fenêtres en fenêtre avec une allège d'un mètre, hein, puisque cette demande elle est sur un mètre. Donc ça, ce sera une discussion qui sera à voir. Si cette règle est applicable, la discussion sera à se poser.
C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de porte-fenêtre ?
Non.
Est-ce que vous avez d'autres bonnes nouvelles, Madame ?
J'ai commencé par le pire. Hein. J'ai posé la question.
Moi, je propose qu'on passe un terrain de camping, ça sera beaucoup plus simple.
J'ai posé la question à Monsieur Brochard, est-ce que je rentre direct dans les problématiques ou est-ce qu'on rentre dans les logements qui seront plus drôles ?
On va en parler, puisque de toute façon.
Mais il faut. Je ne vous parle pas de tout le reste qui va bien.
C'est structurel.
Mais, je vous parle juste de ce qui va mal. Le reste, ce n'est pas très grave, puisque ça va bien. Mais là, oui, on est sur un problème.
Donc là, on a rendez-vous avec.
On rencontre le bureau de contrôle jeudi, hein, avec les bureaux d'études. Jeudi, on doit trouver une solution, ou en tout cas, vous ne l'aurez pas jeudi soir la réponse. C'est-à-dire que jeudi, on va débriefer de tout, voir vraiment tous les problèmes, trouver des solutions pour les régler. Ensuite, nous, il faut qu'on les redessine, qu'on les rechiffre et qu'on les refasse valider au bureau de contrôle. Hein. C'est-à-dire que vous n'aurez la réponse que quand ce sera
valider que le bureau de contrôle dira oui, tout va bien. Et compte tenu de toute la complexité qu'il y a sur l'eau et l'ossature bois, sur toutes ces stabilités au feu,
l'acoustique
qui nous repose, et l'accessibilité PMR, le thermique, il faut qu'on arrive à régler tout ça dans un même centimètre carré. Oui.
Oui, on posait la question, là, si les visseries étaient en bois.
Est-ce que les...
Pardon ?
J'ai pas entendu, madame.
Si les visseries étaient en bois, les porte-fenêtres notamment, est-ce qu'on aurait cet aspect coup de feu sur 1 mètre
Ah non, on va pas faire des menuiseries 1 mètre en bois et 1 mètre.
Non. Si les huissiers, l'ensemble des huissiers étaient en bois, est-ce qu'on aurait cet aspect préservé? Enfin, je veux dire, est-ce qu'on rentrerait dans
le vitrage
aussi?
Ah, mais c'est le vitrage aussi.
C'est
bien, ça vous fait plaisir, mais il y a une plus-value quand même relativement importante.
Non, mais, si vous voulez le... mais attendez, je veux la réponse, je ne veux pas savoir combien. Est-ce que ça fonctionnerait? C'est-à-dire, est-ce que ça rentrerait dans. Est-ce que...
Ça répond à un des critères du problème.
Voilà, c'est-à-dire le critère qu'on fait sur 1 mètre.
Ouais.
Quand on a des huisseries en bois. Mais on est bien d'accord que l'ensemble des huisseries en bois, c'est pas forcément envisageable.
On ne traiterait que celles sur les coursives. On peut pas se permettre, c'est au niveau de la plus-value, traiter. Hein. On ne traiterait que les portes-fenêtres des coursives.
Ouais,
et déjà, on a une plus-value qui est estimée à 10 000 euros en ne traitant que les portes-fenêtres des coursives.
Ouais, que les portes-fenêtres.
Et de toute façon, il faudra avoir.
Parce qu'il y a le vitrage qui doit aussi.
C'est le vitrage ordinaire, entre guillemets, n'est pas pare-flamme, n'a pas de caractéristiques. Et c'est un vitrage spécial, donc effectivement, c'est. Voilà. Alors, deux choses. L'une, on dit soit la porte-fenêtre, donc ce qui supposerait d'avoir un vitrage toute hauteur, ou alors si c'est effectivement une allège, vous avez une traverse intermédiaire, et là le vitrage qui est à l'intérieur ne peut être effectivement donc un vitrage pare-flamme, c'est comme ça que je comprends. C'est ça.
Non, c'est soit on remonte l'allège et puis sur 1 mètre on remonte l'allège et on fait des fenêtres.
Oui, mais là vous avez une porte-fenêtre et qu'on fait une fenêtre, ça veut dire que l'allège, la partie basse de l'allège, c'est un vitrage qui est pare-flamme.
Ah oui, de faire le vitrage sur 1 mètre simplement.
C'est ça. Et la porte-fenêtre supposerait, si vous avez une menuiserie bois, que s'il n'y a pas comment dirais-je, au niveau intermédiaire,
de traverse
intermédiaire, le vitrage soit traité tout autour.
Oui, mais ça, bon, j'ai envie de dire, quand on sera sûr qu'il faut le faire. On va réfléchir aux meilleures solutions possibles qu'on va trouver pour que ça coûte le moins cher possible. Ouais. Mais déjà, il faut qu'on soit sûr.
Parce que la plus-value, elle est pas tellement sur le verre. Parce qu'on rencontre un traitement supplémentaire que le verre subit au moment de sa fabrication, c'est surtout le bâti. Si on change de matériau. Donc, on est en PVC en base, on ne peut pas faire de l'alu, ça ne marche pas. Donc, on ne peut faire que du bois ou de l'acier. Et l'acier, c'est très très cher. Donc c'est écarté.
Très très loin.
Mais dès qu'il y aura une nouvelle norme, on ne saura même plus quel matériau on pourra mettre. Si on va trop loin sur les normes.
Il faut une chose, c'est que nous on a pris au début, on essayait de se battre contre les règles, parce qu'il y a des moments, c'est vrai qu'elles nous révoltent. Et puis un jour, on se dit non, on arrête de se battre contre. On les prend telles qu'elles sont. Il n'y a pas le choix, faut les appliquer. Alors on essaye même plus de se poser la question du pour qui et du pourquoi. Il y en a 10 à appliquer au même endroit. Elles sont complètement dans tous les sens. Et nous, il faut qu'on arrive à trouver, à sortir un miracle de notre chapeau.
Pour les volets roulants, comment ça se passe alors?
C'est-à-dire
pour les baies au rez-de-chaussée, normalement.
Aucune baie 3 vantaux allant jusqu'au sol n'a de volets roulants. Hein, les volets roulants ne sont que sur les baies des chambres, qui auront a priori. Alors là, c'est juste pour la.
Même au rez-de-chaussée.
Alors, les baies qui ont des volets roulants, ce sont les baies des chambres, et les baies des chambres ont une allège d'un mètre.
Oui.
Voilà, donc y a pas, la question ne se pose pas.
Et pourquoi elle ne se poserait pas?
Bah parce qu'on a dit, bon, on en parlera dans les particularités.
Hein. Oui.
Sur la globalité, on va dire, on a.
Mais ta question, c'était peut-être par rapport au pare-feu, le volet roulant par rapport au feu.
Je dis. Toutes les baies qui ont des volets roulants ont une allège. Voilà. Donc, il n'y a pas de problème.
Oui. Oui, d'accord. Pris comme ça.
Dans une toute petite complexité auquel il faudra répondre avec le bureau de contrôle, l'accessibilité handicapée demande que la poignée de porte soit entre 80 et 1,30 m, ce qui fait qu'en général, on fait des allèges à 90
pour que la poignée soit assez basse et qu'on n'ait pas besoin de mettre de garde-corps. Mais s'il faut passer avec du coupe-feu sur un mètre, on est obligé de faire une allège d'un mètre. Du coup, quid de l'handicapé? Donc vous voyez, on est tout le temps face à des choses comme ça. On est sur deux normes qui se contredisent.
Mais là, normalement, suite à la réunion avec le grand contrôle, il y a toujours une solution pour, voilà, pour satisfaire tous les critères.
Voilà, c'est ça qu'on doit trouver. C'est comment...
dans une situation handicapante, donc ça...
Comment on arrive à répondre à tous ces critères dans des, dans des choses qui sont complètement contradictoires.
À certains moments,
on discute raisonnable.
On ne peut pas partir dans des solutions qui ne vont pas être validées. Donc il faut absolument qu'on échange avec le contrôle de manière à ce qu'on puisse aller vraiment dans une solution qui fonctionne et auquel on aura l'autorisation, la validation.
On cherche le
peut-être prime. Juste un petit peu pour que vous compreniez bien, un bureau de contrôle, il contrôle nos études, il contrôle tout le temps du chantier, donc que tout soit conforme à toutes les règles pour lesquelles on lui a demandé de contrôler. Je me souviens plus des règles qu'il a, mais entre autres, il a la sécurité incendie et l'accessibilité handicapée, et puis un certain nombre d'acoustiques. Donc il va contrôler tout ça. Et à la fin du chantier, le jour de la réception, il fait un rapport qu'il rend au maître d'ouvrage en mettant les choses qui sont bonnes et pas bonnes. Et toutes les choses qui sont pas bonnes, il faut les reprendre. Donc c'est vrai qu'on essaye dès le départ que... Déjà, c'est compliqué d'arriver à ce que tout soit bon jusqu'au bout. On essaye dès le départ d'avoir des plans qui soient entièrement validés, parce que sinon, on ne s'en sort pas arriver au bout.
Voilà. Si, donc, il faut absolument... si un bureau de contrôle venait à ne pas valider tous les points de la construction, vous ne seriez pas assurable. Il n'y aurait pas de garantie décennale, par exemple. Pour faire court, notre assureur, il nous demande le rapport final du bureau de contrôle. Si je ne l'ai pas terminé, ce n'est pas assurable. Donc... On voit bien.
Donc on est obligé de faire avec lui et jusqu'au bout, jusqu'à la réception et jusqu'à son rapport final, on est obligé de faire avec lui. Ça c'est pour vous expliquer, parce qu'après on a beaucoup parlé d'accessibilité handicapée et ce sera le même problème, il sera là jusqu'au bout et on doit la respecter jusqu'au bout.
Il y a aussi un contrôle
essentiel.
Il y a aussi un autre contrôle qui est la conformité de la construction par les DDTM.
En plus.
Qui vient se surajouter. Le bureau de contrôle, il est choisi, désigné par le maître d'ouvrage, qui nous assiste. Et pour autant, il y a quand même des contrôles de la construction, alors qu'ils ne se font pas sur toutes les constructions. Et celle-ci peut être contrôlée, comme j'en ai sur des opérations neuves. Et là, il y a intérêt, effectivement, donc, à être bien. Et il ne se contente pas spécialement non plus de la validation du bureau de contrôle. Il y a des vérifications physiques qui sont faites.
Nous, on a le cas aujourd'hui où la DDTM nous remet en cause des dires du bureau de contrôle.
Ce qu'on a quand même avant de bureau de contrôle par rapport à la problématique des allèges, c'est le fait effectivement d'un temps béton un peu constitué, donc effectivement une barrière au feu. C'est un peu ça. Ce qu'on a à voir avec eux, c'est ça.
Mais c'est après comment on réduit tous les détails techniques par rapport à l'accessibilité handicapée et tous les problèmes d'eau qu'on a sur cette coursive aujourd'hui qu'on n'avait pas avant, puisque l'eau passait au travers. Aujourd'hui elle passe plus au travers, elle rejaillit. Donc c'est ça qui est assez compliqué.
Très bien. Donc moi suivant.
Madame qui peut
parler. Oui, madame.
Oui, enfin, je ne sais pas si c'est pertinent, mais votre proposition de mettre des allèges, des fenêtres plutôt que des baies vitrées, est-ce que ça ne remet pas en question le côté passif du bâtiment?
Ah, pas du tout.
Et l'entrée de la chaleur et de la lumière?
Non, parce que c'est sur le bas, ça ne joue pas tellement. C'est
des allèges vitrées?
Non, ou des allèges pleines ou vitrées. J'ai envie de dire, on se posera. Quand on aura notre réponse de savoir si on a l'obligation, on vous proposera deux ou trois solutions possibles et vous aurez à choisir sur ces deux ou trois solutions possibles.
Ou il y en aura peut-être une.
Ou il y en aura peut-être une, on arrivera à régler le problème. Voilà, il y aura le financement et des possibilités techniques qu'on mettra l'une à côté de l'autre. On va changer complètement de sujet. Je voudrais qu'on reparle un petit peu de tous les extérieurs, parce que c'est un peu un sujet qu'on a laissé tout le temps flotter. Donc je voudrais vous montrer ce qu'on a prévu. Depuis le début, on n'a pas beaucoup changé, mais on n'en a jamais beaucoup discuté. Pourquoi est-ce que j'arrive pas à voir ma liste? Je l'avais tout de suite. Voilà, c'est ici. Donc, au niveau du plan masse, éventuellement, il y a peut-être un tout petit peu de modification par rapport à ce qui a été donné au permis. Donc, vous vous souvenez, on est parti sur un principe que tous les sols devaient être perméables. Hein, donc, on était parti sur du terre-pierre par rapport à des questions de durabilité et de, comment on peut dire, de stabilité au roulement. Ouais. On est parti sur ce qui était voirie avec simplement de l'empierrement. Un empierrement, on est en train de réfléchir pour voir la finition de cet empierrement. Donc en empierrement, ce sera que des pierres. Aujourd'hui, quand on dit empierrement, c'est de la pierre, ce qu'on appelle du 0,31,5. C'est gris, oui, c'est un peu carré, c'est assez anguleux.
On voit sur les
On est en train de chercher avec Fabrice un matériau qui soit un peu plus esthétique, on va dire, pour faire juste la couche qui sera au-dessus, qui reste pas
finition,
la couche de finition, mais qui soit pas de la terre, parce qu'on a peur que ce soit trop mou avec les avec quand même la circulation de voiture qu'il puisse y avoir. Et, mais qui soit quand même un peu plus esthétique que ce qu'on appelle le 0,31,5 basique.
Ça va pas voler les.
C'est du tout dans moi ça.
Ah non, mais il faut trouver le. Il faut trouver le granulat qui va bien. Quoi.
Quand on roule dessus.
Là, on est en train de faire des recherches. Oui.
Et qui rentre aussi dans notre budget. Parce que
oui.
Sinon.
Oui, non, mais voilà, et trouver quelque chose qui soit esthétique, qui soit stable au roulement des voitures.
Oui, c'est vrai.
Bon, là, on est en cours de. D'accord.
Ça sera roulant
pour
des fauteuils roulants.
Il y a une zone, les places handicapées et, ouais. Et la zone d'entrée. Et voilà, alors pour les personnes en fauteuil roulant, quand elles vont vouloir sortir pour aller faire des courses, par exemple, elles seront bien obligées de passer sur une partie ici qui sera quand même, on ne peut pas dire, c'est pas de l'enrobé, hein, ça reste des cailloux. C'est roulant, mais c'est pas confort. Hein, et puis c'est pas roulant facilement, c'est plus dur. Par contre, au niveau de la voiture, ici, alors je suis désolée, c'est très très noir, on voit pas très bien. Ici, on a une place handicapée et une place borne électrique. On a un fourreau pour deux bornes électriques qui seront sur ces deux places-là, avec celle-là qui est anticipée à l'air. Ici, on est sur du béton balayé, ainsi que sur la partie d'entrée qui est ici. Hein, l'entrée du bâtiment se fait là, hein, puis ensuite on a le local vélo. Donc ici, par contre, on est complètement sur du béton. Hein, la sortie de la place PMR jusqu'à l'entrée du bâtiment, on est sur du béton. D'accord ? La partie, c'est si la personne part par le chemin ici, eh ben, c'est vrai que cette petite partie-là, et quand même, ça reste du caillou. C'est pas hyper roulant.
Donc c'est PMR à l'intérieur, mais pas à l'extérieur. C'est bien ça. C'est un champ pratique, c'est bien. On cherche l'autonomie des personnes handicapées à condition qu'elles ne sortent pas de chez elles.
Non mais ne nous engueulez pas, c'est des choix que vous avez fait vous. Hein.
Non, mais on pensait naïvement qu'un handicapé pouvait rentrer chez lui. En étant autonome.
Vous nous demandez la facilité. Oui, ce n'est voilà, on parle franchement. Non, j'avoue que j'imagine, je suis pas dedans, mais j'imagine qu'avec un fauteuil et des roues comme ça, ça doit pas être très facile sur des cailloux.
Ok.
Après.
Alors dire handicapé. Hein.
Mais on a le droit de faire un autre choix. Hein. Moi, je vais vous faire un point. On peut très bien passer ça. Alors, attention, chaque chose, quand on change, pose d'autres problèmes. On a répondu aujourd'hui à une perméabilité à l'eau. La mairie, d'ailleurs, nous a obligés de faire une réserve d'eau parce qu'on a ce qu'on appelle un débit de fuite, c'est-à-dire l'eau qu'on renvoie dans les réseaux va être trop important. Donc, on est obligé de mettre une réserve d'eau pour que le débit de fuite soit moins important. Si à chaque fois qu'on va, alors aujourd'hui on va dire que notre débit de fuite il comprend l'eau qui est récupérée sur les toitures, donc qui reste quand même relativement faible en surface et puis un petit peu sur le béton qui est ici, donc il est assez faible en surface. Toutes les surfaces qu'on va étancher nous feront du débit de fuite supplémentaire qui obligera à augmenter cette réserve d'eau en surface, en stockage. On peut faire peut-être un trottoir. Quoi.
Voilà, c'est ça qui mène de la propriété à l'extérieur. Un passage fauteuil, quoi. Il n'y a alors, pas besoin de tout imperméabiliser.
On peut très bien faire parce que ici, donc, on a le local poubelle qui est un petit passage. On peut venir ici faire une bande qui rejoint.
qui rejoint, sauf qu'on est dans les places. On est, ouais, mais on peut pas rouler sur les places.
Mais on peut faire la
ça peut être une bande de roulement sur une épaisseur. Vous êtes sur la largeur de la voirie et vous sur une.
Techniquement, ça ne pose aucun problème. Est-ce que la mairie va être d'accord? On est dans la partie qui est réservée.
Si on peut rouler jusqu'à blanc, la mairie, c'est ce soir-là, vu qu'on construit ça. Je pense que ça doit aller.
Il y a un point à travailler pour
moi. On va
d'aménager sur une largeur, une bande de roulement.
Ça pourrait servir aux autres handicapés. Ben sur la bande verte, il passera des handicapés. Donc. Mais aussi qu'ils puissent rouler.
Ben oui, bien sûr. Oui.
Il faut qu'ils. Sur la bande d'engazonnement, là.
Ah non, sur l'engazonnement, là, il n'y a rien, là.
Non, mais là.
Si on a un engazonnement,
sur la partie réservée par la ville.
Sur la bande de servitude.
La bande de servitude.
La bande de servitude, c'est ça. Donc on peut. Peut-être qu'on peut imaginer finalement sur un mètre sur la bande de servitude. Donc avoir un
chemin. C'est juste l'entrée. C'est tout.
Bah oui. Ça, c'est un jour.
Enfin, j'ai quand même entendu que effectivement on avec une grave, mais par-dessus on cherche à mettre un petit revêtement, pour une meilleure finition. On peut quand même circuler, avec un fauteuil. C'est pas un problème. C'est pas
sur une bande de finition, je pense.
Sur une bande de finition, vous pouvez le faire. C'est damé, enfin c'est quand même quelque chose.
Oui, c'est quand même quelque chose. Non, ce que je veux dire, c'est que c'est pas hyper confort. Voilà.
Alors c'est pas hyper confort. On peut circuler. C'est pas un trottoir avec un enrobé. C'est voilà. Clair, ni un asphalte, ça c'est sûr. C'est tout, mais on peut quand même pouvoir circuler. Vous circulerez bien en vélo. Donc il n'y a pas de.
Pour l'avoir vécu en fauteuil, les gravillons.
Les gravillons.
Les gravillons, on ne roule pas de leur
chien. Ah oui. Ouais.
C'est pas du gravillon. Non.
C'est plus gros, du gravillon. C'est plus gros et plus damé. Voilà. C'est pas mou comme le gravillon. Mais on va
faire une bande. On va faire une bande. C'est vrai. Ouais.
Alors je continue. Non, c'est.
Oui.
Donc on est parti. Donc ici on a le local poubelle avec un toit et un sol.
La mairie, enfin la communauté de communes, le service déchets de la communauté de communes a demandé qu'il soit agrandi par rapport à l'APD.
Ouais. Donc on a répondu
non, 8 à 11.
Au local poubelle, on a répondu pareil à une demande de la mairie qui a été de faire un local poubelle avec une dalle béton, un toit, des murs, hein, de faire un local,
un
siphon sol.
Et raccordé.
Donc
et raccordé
on a fait...
sur les eaux usées.
Hein?
Et raccordé sur les eaux usées.
Et raccordé sur les eaux usées.
Ouais.
Donc on a donc un local, on a été obligé de faire un local complet pour répondre à leur demande. Et en plus au début ils nous ont donné un certain nombre de containers à mettre, ils ont trouvé que nos containers étaient trop serrés, ils nous ont demandé de réagrandir pour que les containers soient moins serrés. Donc on arrive, voilà, donc on l'a mis. Il est collé à la façade, vous le verrez mieux sur le plan de rez-de-chaussée, on regardera tout à l'heure. Ici, on est dans la zone d'engazonnement, avec la cuve EP qui va venir dans cette partie-là, hein, donc toutes les eaux pluviales seront récupérées là pour repartir ensuite vers le réseau collectif. J'ai une question à vous poser. Est-ce que de cette. J'ai pas compris le descriptif. Je sais pas trop. Est-ce qu'on peut récupérer ces eaux de pluie? Est-ce qu'on peut nettoyer le local poubelle avec? Parce que c'était le but quand même de récupérer.
C'est un bassin de rétention.
Voilà, c'est qu'un bassin de rétention.
Autrement dit, c'est récupérer. Il y a une pompe pour passer le relais à l'eau.
D'accord, donc non, mais c'est. Je me suis posé la question. Moi, dans ma tête, c'était une cuve.
Une cuve avec.
Avec récupération.
C'est un volume tempéré.
Alors que là, on est
dans. Voilà, c'est ton volume tempéré.
C'est un bassin de rétention avec dimensionné pour. Le puits qui est autorisé par la ville de Caen.
Voilà, donc du coup, l'eau n'est pas récupérable.
Elle n'est pas récupérable.
Celle des toits.
Celle des toits.
Celle de la couverture.
Celle des toits.
Celle des couvertures, le son, on peut récupérer, c'est un réseau différent.
Il faut qu'on voit le coup de mettre un remplissage.
Il faut qu'il y ait un accès, qu'on puisse utiliser cette eau au lieu de qu'elle soit rejetée à l'égout.
Il y a dans le projet un système de récupération des eaux de pluie qui est prévu, conformément à ce qui a été évoqué. Par contre, ce n'est pas le même réseau. Là, le
dimensionnement, c'est. Quelles eaux?
des eaux pluviales. Bon, il y a une partie des eaux qui va aller dans une cuve pour justement être réutilisée selon vos besoins des extérieurs. Par contre, effectivement, il y a un besoin réel de limiter le débit global de la surface collectée. Vous ne pouvez pas rejeter autant d'eau que vous voulez dans les espaces publics. Sinon, les stations d'épuration vont tout de suite.
On comprend bien ça.
Donc, c'est un réseau différent. C'est-à-dire qu'on va collecter une partie des eaux pour les envoyer dans un système de récupération d'eau de pluie qui va être réutilisé. Mais ça ne nous dispense pas de cette fosse tampon.
Est-ce que le système de récupération d'eau de pluie, donc, qui en plus, moi je pensais que c'était le même, est prévu?
Oui, il est en option, tout à fait.
D'accord. Alors,
en option.
Ouais. Il est en option, non, d'accord. On a réalisé nous, sur un système comme ça, ouais. L'un sur l'autre.
D'accord.
Donc,
ils peuvent être collés, mais c'est deux choses différentes, mais ils peuvent être l'un avant l'autre.
Voilà, mais là ils sont l'un sur l'autre, c'est-à-dire que le trop-plein de la cuve de récupération d'eau de pluie va aussi dans ce système.
Ah ben elle ira, forcément.
Voilà, mais ils sont ensemble en fait, c'est un tout, ils sont l'un sur l'autre.
Ben, ils sont montés en série. Mon eau de pluie va dans la cuve réutilisée. Une fois qu'elle est pleine, on rejette. D'accord. Et là, on va passer toujours via le bassin.
D'accord.
Et une fois que la cuve est pleine, on rejette. On ne peut pas réduire, du fait qu'on collecte les eaux de pluie pour les réutiliser, on ne peut pas réduire notre jet du débit de fuite. On considère que la cuve, vous ne l'utilisez pas forcément.
Oui.
Alors, vous n'utilisez pas la cuve au quotidien, systématiquement.
Donc la cuve
P. Peut puiser dedans.
Oui.
Dans la cuve P, elle est en option. D'accord. C'est-à-dire que le système de rétention est obligatoire, donc il est en base. Par contre, le système de récupération d'eau de pluie est en option.
La cuve supplémentaire au-dessus, alors là.
Oui,
c'est ça qui est en option.
C'est ça. La version réglementaire obligatoire est première.
On vous l'avait déjà proposé cette UVP en option, et à l'époque vous ne l'aviez pas prise cette option. Donc on la laisse en option parce que c'est vrai que l'appel d'offres. Si l'appel d'offre est en dessous, c'est toujours sympa de pouvoir la prendre au cas où. Voilà. Donc après, vous aurez le choix.
Ça ne serait pas tellement utilisé dans la mesure où le jardin est de l'autre côté de.
Alors il y a déjà une utilisation, c'est le lavage des poubelles.
Ah oui.
Qui est quelque chose d'important. Et puis ensuite, ceux qui veulent, qui ont le courage, ils prennent l'eau, un arrosoir. Voilà. Mais c'est vrai qu'on l'a mis de ce côté-là, un, parce qu'on est plus près du réseau, et deux, parce que quand même, il y a beaucoup d'utilisation d'eau qui se fait sur le nettoyage du local poubelle et des poubelles. Éventuellement des vélos. Hein, donc il y a aussi des choses. Voilà, on est plutôt sur du nettoyage que de l'arrosage.
On peut pas prévoir un tuyau depuis cette cuve-là qui passe sous les bétons pour aller jusqu'au jardin.
On va mettre un fourreau avec un PER qui passe sous le bâtiment pour se faire
des trucs. Ah oui.
Ça c'est par souci, c'est
deux. Ah bah voilà. Très bien.
Ça paraît logique.
Ah oui, il faut.
Mais par contre, il est gravitaire ou alors vous avez une pompe?
Ah non, il y a une pompe.
Alors on a une pompe systématiquement. Et puis quand la cuve est vide, par contre, il y a un lien direct avec une alimentation en potable, ce qui fait que vous pouvez puiser des centaines de millilitres.
Alors ça, c'est pas bien du tout. C'est un système, franchement, c'est pas bien du tout ces trucs-là. Surtout qu'il n'y a pas d'alarme. C'est-à-dire que vous prenez de l'eau de pluie, vous y allez, vous arrosez, vous êtes tranquille, puis tout d'un coup ça passe sur votre ville, mais vous ne le savez pas. Alors vous continuez à arroser, à faire à laver, etc., mais vous ne savez pas. Moi je trouve que ce système, il n'y a plus d'eau. Ou alors sinon.
Il est branché, mais c'est fourni avec systématiquement, sinon je propose juste.
Mais bon, ce sera une réflexion qu'il faudra peut-être avoir. Il faudra
se voir pendant le chantier éventuellement, mais c'est bon.
Il faut qu'il y ait une lumière rouge à un moment donné.
Il faudrait au moins qu'on soit prévenu, que vous sachiez que vous utilisez. L'eau de pluie, on ne l'utilise pas de la même façon. Donc, bon, ça c'est.
Si pour des questions de finances, l'habitat participatif ne fait pas le choix immédiat de la cuve de récupération, est-ce qu'il est toujours faisable, possible, de l'envisager d'ici 4-5 ans?
Ce sera toujours faisable, par contre, ça coûtera plus cher. Bah, j'ai une intervention sur les VRD, justement pour enterrer la cuve, qui sera, je dirais, plus facilement noyé dans les travaux de construction d'aujourd'hui. Oui. Demain, faudra reprendre les surfaces de finition, il faudra refaire le terrassement. Une entreprise reviendra spécialement, ça coûtera forcément plus cher.
Ça coûtera beaucoup.
Beaucoup plus cher. Et c'est quasiment le double.
Et c'est combien sur 7000
euros? 7000.
faudra vous. Je pense que il faut partir du principe, c'est vous le faites maintenant ou vous ne le faites pas.
Oui.
S'imaginer le faire dans 5 ans, c'est une hérésie, ça, ce n'est pas vrai. C'est maintenant ou sinon, franchement, ce serait aller le faire dans 5 ans, ce serait aberrant. De venir recreuser le terrain, ramener des engins, il faut refaire toutes les finitions, etc. Refaire les manchons, les trucs, c'est maintenant ou c'est pas. Après, techniquement, c'est toujours faisable, mais à quel prix ? Alors, on continue. Donc ici, on a nos places de parking. Hein. Donc, elles qui sont avec du terre-pierre. Pour séparer le terre-pierre, comme on ne peut pas mettre de bordure dans le terre-pierre, on propose de mettre des bastins en bois qu'on met dans le terre-pierre, comme ça, qui permet
de
les délimiter. C'est assez discret, c'est couleur bois dans le terre-pierre, ça passe assez bien.
C'est du bois.
Et on vous a proposé aussi des bordures. Donc on a toutes les trois places des petits espaces verts avec des arbres. On vous a proposé des bordures aussi en bois. De ne pas venir avec des bordures en béton, alors qu'on est quand même dans un projet qui est tout en bois, assez naturel, etc. Donc aujourd'hui, il y a des bordures béton qui sont pas mal.
Bois.
Voilà, c'est pas mal. Et puis voilà, donc on est parti sur des bordures bois qu'on aura autour. On avait proposé il y a longtemps donc de mettre des arbres qui ont été à un moment donné supprimés pour un gain de place, et moi ça m'a paru très très dommage, parce que l'idée c'est quand même, quand les arbres vont grandir, ont des feuilles, etc., quand vous êtes à vos fenêtres, vous ne voyez pas les voitures ou beaucoup moins, parce que de sa fenêtre ne voir qu'un parking, c'est pas hyper heureux. Donc c'est vrai que c'est surtout voilà par rapport à la vue des fenêtres, et puis ça donne toujours un petit peu d'ombre autour des voitures, mais c'est quand même plus gai que des voitures. Par contre, ça implique qu'on aille jusqu'en bas, donc parce que je vous rappelle, je sais pas si vous vous souvenez, mais donc la ville nous a toléré ces places, ils en ont toléré qu'une, on en a mis deux, on va voir si on espère que ça passe, on n'a toujours pas le permis. Ils refusent que vous puissiez faire votre sortie et vos créneaux sur la route, parce qu'ils appellent ça une route. Donc là où on n'était pas d'accord avec eux, mais ils n'ont jamais voulu démordre de ça. Donc pour eux, quand vous sortez sur une route, ce qui est absolument interdit. Donc nous on a dit c'est pas une route, en plus le terrain vous appartient, etc. Mais on n'a jamais eu gain de cause, sauf pour ces places spécifiques. Oui.
Je croyais qu'on n'avait pas le droit d'utiliser la zone de servitude, que la ville pouvait se la garder pour faire éventuellement une voie. C'était le projet de la ville il y a quelques années.
Oui, non, c'est pas ça que je dis. C'est-à-dire que.
Par
où
les voitures vont-elles sortir?
Elles vont sortir par cette voie.
Oui, par la zone de servitude.
On ne construit pas dessus.
Je crois que la ville pouvait avoir un droit de préemption pour faire une. Ils envisagent de faire une voie verte entre la rue Calmette et la rue d'Ache. Et maintenant, on a le droit de rouler sur une zone de servitude. Ça m'étonnerait que la ville accepte.
Non, on veut pas. Vous n'avez pas compris.
Non.
En fait, ici, c'est une voie qui va devenir, ça va devenir une voie au départ piétonne pour l'accès. C'est-à-dire qu'à partir d'ici, normalement, elle est piétonne. Oui. Vous l'utiliserez avec des voitures pour rentrer ici sur vos places de parking. Oui. Aujourd'hui, ce qu'on pensait qui était une évidence et qui ne l'est pas du tout, c'est que sur une voie publique, vous n'avez pas le droit de reculer de votre place de parking pour sortir de la place de parking sur une voie publique. Nous aujourd'hui on est parti du principe que cette voie n'est pas une voie publique mais n'est qu'une servitude, puisque on n'est pas sur le domaine public, on est chez vous. Donc la mairie nous refuse que vous ayez le droit de reculer pour sortir de votre place de parking sur cette voie qu'ils estiment, que c'est dangereux.
Non, mais excusez-moi, je ne vois pas où est la zone de servitude sur le plan.
C'est cette bande là.
Cette bande-là, c'est une bande roulante qui vous servira comme accès et qui servira de voie verte,
pour rejoindre ici, pour rejoindre de là à là.
Rouler sur une voie verte.
Si, vous avez le droit de rouler dessus.
C'est pas peut-être
pas une voie verte, c'est une voie piétonne.
La ville m'avait dit qu'ils envisageaient à moyen terme de faire une voie douce de circulation permettant d'aller de la rue Calnette à la rue de Vinge. Si maintenant on a le droit de rouler sur une voie réservée aux piétons et aux poussettes, moi c'est.
Mais dans ce cas, vous serez les seuls à avoir le droit de rouler sur une
voie. Mais comment on risque
vraiment les piétons? Justement, c'est pas prévu.
En plus, on l'achète. Hein.
Et là, c'est pas le domaine public. Hein. La ville n'a pas demandé à ce qu'une bande lui soit octroyée qui deviendrait du domaine public. On est dans le domaine d'une servitude. Hein, c'est-à-dire que là, précisément, vous pouvez rentrer en voiture. Hein, la ville demande, on ne peut, c'est inconstructible. Elle sera utilisée de manière partagée entre une voie douce, puisqu'il y aura une continuité. Hein, et le fait que vous puissiez rentrer chez vous en voiture, c'est une voie partagée. On est dans le domaine de la servitude et non pas dans le domaine de la propriété.
Ok, excusez-moi.
D'où le fait qu'on ait pensé qu'on puisse sortir des places de parking voilà. Sur cette voie.
Oui, mais ça, qu'ils ne sera pas non plus une rue qui va devenir.
Voilà, mais ils ont refusé. Donc pour revenir à mon propos, donc, les places de parking sont là. Il y avait eu une demande, il me semble, d'en rajouter. Donc si on rajoute des places de parking. Le seul endroit où on puisse en rajouter, c'est de l'autre côté, ici.
Même s'il y a des bébés. Et puis c'est le jardin.
Ah oui, il y a des. Non, mais ou ici, hein, mais bon, voilà.
Là, on a 15, 16.
Si vous nous avez fait une demande éventuellement de pouvoir rajouter des places de parking, le seul endroit où on puisse rajouter des places de parking, c'est dans cette partie ici.
Ou alors en rajouter une en supprimant les arbres.
Ou alors on supprime tous les arbres et ça nous redonne une place de parking.
C'est un choix à faire, les arbres. Hein, parce que d'un côté. D'un côté, vous voyez moins les voitures par rapport à l'immeuble. De l'autre côté, vous êtes sous des arbres. On sait très bien que sous les arbres, vous avez forcément, sous un arbre, vous avez ça colle. On va pas mettre des tilleuls, bien sûr. Hein, mais néanmoins, sous un arbre, il y a forcément des
un petit oiseau qui vient se lécher dans l'arbre. Ouais. C'est à vous que revient ce choix.
C'est à vous que revient ce choix. Il y a une possibilité de faire une place supplémentaire, effectivement, en supprimant les arbres. Alors, on supprimera peut-être pas le premier, mais les trois qui sont intermédiaires.
Ah, bah pour rajouter une place, on supprime moins.
Il en faut supprimer trois.
C'est dommage ça.
Dans la partie jardin. Donc, on a aujourd'hui, nous, ce qu'on prévoit, hein, on vous avait au niveau de l'APS, on vous avait présenté un projet un petit peu paysager de tout cet espace, a priori que vous ne souhaitiez pas. Donc, on a abandonné ce projet. On est resté donc juste sur des haies. Ici, on est sur
il y a un mur.
Ici il y a des panneaux béton, donc on a proposé de venir faire des haies de charmille sur cette partie là et sur ce retour qui est là, hein, pour fermer la partie jardin. Voilà. Aujourd'hui on a prévu que ça et puis que le reste soit en engazonnement et que ce soit vous qui fassiez votre jardin comme vous le souhaitez.
Question de la terre.
Juste une question, le mur est là, est-ce qu'on sait s'il est existant? On sait s'il est mitoyen ou s'il a à qui il appartient.
Alors il suffit de regarder sur le cadastre s'il avait effectivement une petite pointe, ouais. Ça veut dire qu'il est propriété uniquement d'un côté ou alors de l'autre côté. Donc c'est facile à savoir. Je crois qu'il y avait une question qui avait été posée par rapport à une barrière à l'entrée. J'ai lu ça quelque part. Oui. Mais le fait qu'on ait le fait que ce soit une servitude ne permet pas de mettre une barrière.
Hein, ça voudrait dire une barrière entre le local vélo et l'arbre.
Ah d'accord. Donc s'il y avait une barrière à mettre, ce serait ici, parce qu'il ne peut pas y avoir justement du fait de la servitude, hein, une barrière qui serait mise sur la place du docteur Lahennec.
Ce qui est possible, c'est de prévoir un fourreau pour une barrière.
Quel est l'intérêt?
Bah, au cas où.
Il y a une barrière
à fond, ouais. Enfin,
bon. De mettre un fourreau.
En même temps, c'est du terre-pierre. C'est
du terre-pierre.
Donc, la barrière, excusez-moi, parce que
si, barrière,
si tout est ouvert, qu'est-ce qui empêchera des personnes qui
rentreraient
et se gareraient sur nos places de parking?
On met propriété privée.
C'est propriété privée, hein. C'est des voitures qui n'ont pas.
On peut mettre un panneau propriété privée. Oui, c'est tout. Okay. Parce que.
Donc, si barrière il devait y avoir un jour, elle ne peut être que là.
Oui.
Voilà.
Ouais. Et là, éventuellement, on peut mettre effectivement un fourreau en attente si un jour vous décidiez éventuellement de vouloir.
Alors, attention, le fourreau en attente.
Ça coûte rien.
Oui. Alors, ça coûte rien, mais ça pose un problème, les fourreaux en attente, c'est qu'ils sont dans le sol, on ne sait plus où ils sont le jour où on va s'en servir, et on met un petit bouchon, mais qui ne tient pas très bien. Avec le temps, ce petit bouchon, il part, et puis ça se remplit d'eau, et puis tout d'un coup, on se retrouve avec une inondation dans le local ELEC, et on se dit, mais pourquoi est-ce qu'il y a plein d'eau au rez-de-chaussée? Et en fait, c'est les fourreaux qui, avec le temps, alors, moi, des fourreaux en attente partout, je ne suis pas hyper motivé pour ça, parce que on se finit par se retrouver avec des inondations.
Ouais. On lui fait un coude.
Ou dans un regard. Il faut bien boucher, parce que sinon, les fourreaux qui restent dans du terre-pierre, hein, je ne sais pas si vous voyez ce que ça va donner.
Ça figure pas sur le cadastre, la propriété du mur.
Alors, si on a trop rouge qui ressort, mais qui reste avec son petit fil vert qui.
On ne sait pas, je ne sais pas vous répondre, c'est pas précisé sur le cadastre. Là,
on est sur le mur.
Oui.
Donc on vous a prévu trois fourreaux ELEC qu'on va vous sortir, voilà. Alors eux, ils seront sortis, hein, c'est-à-dire que ce n'est pas des fourreaux qui seront enterrés, c'est des fourreaux qu'on va laisser en attente, hein, pour que vous y mettiez ce que vous voulez. Oui. Alors c'est trois, c'est un, c'est deux, c'est zéro. C'est à vous de choisir. Nous, on s'est dit que ça pouvait être sympa que vous puissiez avoir de la lumière à l'extérieur. Maintenant, ça vous intéresse, ça vous intéresse pas. Et c'est des fourreaux qu'on laissera, hein, en attente, c'est-à-dire qu'ils sortent dans le terrain. Le fourreau sort, on bouche, hein, et pour que vous puissiez, on va dire, rapidement faire quelque chose. Maintenant, réfléchissez si c'est un, si c'est deux, si c'est trois.
C'est vrai que c'est toujours
sympa de pouvoir mettre des petites lampes.
Il faudra réfléchir au positionnement pendant le chantier, quoi, pour qu'ils sortent de
l'eau. Non, non, mais c'est lambda, c'est même pas chiffrable. Non, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que ce que je veux vous dire, c'est que ces fourreaux, ils vont sortir. Donc si vous ne les utilisez pas, c'est pas hyper chouette. Et s'ils partent dans le jardin, il se passe exactement ce que je racontais il y a deux minutes, ils se remplissent d'eau et ça crée des inondations. Donc voilà, il faut les utiliser.
Il faut qu'on vous dise on a un élève de combien pour déterminer l'emplacement, c'est lumière si on veut.
Ça déjà dans un premier temps nous dire combien, et puis après l'emplacement on peut même affiner pendant le chantier.
Oui,
pendant
ça s'affinera pendant le chantier,
c'est pas dramatique.
On démarre déjà. Il
faut savoir le nombre nous pour le quantifier dans le
Oui, il peut changer de
oui
après.
C'est pas problématique.
Pendant la durée du chantier. On n'a pas la couleur du fourreau à choisir.
Non, ce sera imposé.
Vert. C'est forcément rouge.
On va continuer donc avec le plan de rez-de-chaussée sur lequel on a les sols. Alors je suis désolée, mes sols sont sortis extrêmement foncés, du coup on voit plus grand chose. Donc on a du béton balayé ici sur le local poubelle, donc on aperçoit à peine le mur, mais il est là. Et puis du béton balayé dans le local vélo, dans l'espace entrée couvert et sur les deux places de parking qui sont ici.
Pardon, c'est une question. Quand on appelle le béton balayé, c'est un béton qui reste assez rugueux.
Et ben, en fait, on voit, c'est fait avec des gros balais, avec des grands.
Ah oui.
Et donc ça fait des traits de balais comme ça. L'avantage du béton balayé,
il y a un premier avantage,
c'est pas très cher. Non,
c'est pas lisse.
C'est pas très cher et c'est antidérapant.
Ouais, surtout c'est antidérapant.
Oui, bien sûr.
Ça c'est avant bien.
De l'autre côté, dans la coursive, sous la coursive, au niveau du rez-de-chaussée, donc on est venu mettre, pareil, un béton balayé sous la coursive. Je me posais la question de la partie qui est dans le hall. Alors qu'on a une porte d'un côté, c'est ouvert de l'autre. Donc on était parti comme on fait couramment avec du carrelage, et puis à un moment donné on s'est dit mais un peu bizarre de mettre du carrelage alors qu'en fait on est ouvert. Donc est-ce qu'il ne faut pas rester avec un béton, alors peut-être pas balayé,
on a fait lisser.
Un béton lissé, ou à l'intérieur du hall,
quelle est la différence, rester sur le même matériau,
mais de rester sur un matériau identique
tout d'abord, donc
parce que le carrelage, s'il y a un petit peu d'eau qui arrive quand même par une tempête, j'en sais rien, qu'il y ait un peu d'eau qui arrive sur le carrelage, c'est très glissant en même temps.
Sur le béton aussi,
il sème pas le gel.
Voilà, on est quand même dehors.
Ça sème pas le gel.
C'est fermé, on reste en béton. Maintenant, il se pose la question d'un paillasson entre les deux, serait peut-être pas mal.
Ouais.
Un paillasson un peu gris.
Ouais.
Paillasson extérieur.
Oui.
Oui.
Ouais. Alors un paillasson ou alors ou une grille gratte-pied.
Alors est-ce qu'on ne mettrait pas entre la sortie de l'ascenseur et ce qu'on va appeler la coursive, dans cette partie-là, une grille, une grille gratte-pied.
Ah oui, c'est mieux.
Ce serait peut-être pas mal entre les deux.
Si vous êtes au jardin, que vous ramenez un petit peu de terre, le paillasson, vous allez avoir des contraintes de nettoyage.
Si ça pleut dans le paillasson,
c'est une cata.
Donc on prévoit une grille gratte-pied ici. Au niveau de cette porte-là, est-ce qu'on prévoit un paillasson?
Une grille. Pourquoi pas une grille
extérieure?
Une grille aussi gratte-pied, pareil ici.
Oui. Ça serait homogène, ça serait
peut-être top et gratte-pied de la collection.
Pour celui qui revient du local poubelle, c'est ça?
Celui qui revient de la bande de servitude.
En passant par la bande de servitude.
Ok, j'irai pour moi sur les extérieurs. On est bon, donc on va continuer. J'ai commencé à rentrer à l'intérieur. Donc sur cette partie que j'appelle les logos publics, cette partie publique. Donc le béton balayé à la place du carrelage, béton lissé avec des gratte-pieds, on est d'accord. Les murs, donc on est sur des murs qui sont, si on prend sur la totalité de la cage d'escalier, on est sur des murs qui sont en béton, bouché. Je vais avoir une certitude parce que votre façon de dessiner me faisait me poser la question, c'est-à-dire s'il n'y avait pas de l'aglo à un endroit, mais non, on est en béton
penché.
On est en béton penché partout. Donc tout ce qui est locaux, communs, circulation, etc., on est sur du local, du béton penché. Ce béton penché, on pensait le peindre, faire une peinture vinyle, c'est une peinture un peu costaud, partout, il peut y avoir un petit peu d'eau, de l'humidité, des choses comme ça. Sauf, je vais plutôt mettre le plan du premier étage. Ici, où on a toujours ce mur embanché avec un poteau d'un côté, et puis ici c'est pareil, on va avoir des murs branchés. Mais ce mur-là, celui-là particulièrement, quand on prend l'escalier, on arrive en face. Quand on sort de l'ascenseur, on arrive en face. Et on se posait la question avec Élise de est-ce qu'on ne lui fait pas un traitement particulier? Alors, tous les autres vont être blancs. Celui-là, il peut être resté embanché, par exemple, avec une lasure. Pour être...
Sachant que le sol sera en béton, du coup.
Le sol sera en béton. De toute façon, aux étages, il est en béton. Où on pouvait, alors on réfléchissait un petit peu, que ce soit un espace d'expression pour vous.
Un tableau d'affichage.
Alors, qui puisse être un tableau d'affichage, qui puisse être une peinture, des tableaux noirs. Vous voyez, une peinture avec comme de tableaux noirs, et que vous puissiez, qu'il y ait un pot de craie, et puis vous pouvez dessiner à la craie dessus, vous mettre des petits mots, faire une magnifique craie. Que vous décidiez de le peindre, qu'on vous fasse un après, et que vous décidiez, vous, entre vous, à chaque étage, de faire une fresque. Voilà. On se disait, ce mur, ce serait bien qu'il soit autre que la peinture blanche. Et voilà. Donc c'était à vos réflexions.
On a le temps pour décider de ça.
C'est bien quand dans le CCTP tout est marqué. Hein, c'est plus simple, vous allez voir quand ça part dans le chantier, un chantier de cette taille-là, ça part dans beaucoup de sens, il y a énormément de choses à gérer. À un moment donné, on oublie. Hein. Donc si on ne le décide pas, oui, ce sera un béton banché. On laissera un béton banché en banché.
Ce que je veux dire, c'est qu'on a quand même.
Jusqu'à l'appel d'offres. Jusqu'à l'appel d'offres.
Voilà, c'est ça que je veux dire. Non, c'est pas dans 8 jours.
Non, mais ce sera peut-être plutôt d'ici un mois, un mois et demi, qu'on va lancer cet appel d'offres.
D'ici un mois, c'est bien.
Ça va, ça nous va.
Voilà, c'est ce qu'on souhaite tous, je pense, c'est que cet appel d'offres finisse par partir.
Et les crédits.
Bon, voilà, donc on est bien d'accord, l'escalier, hein, pour que vous ayez un petit peu, que vous visualisiez un petit peu cet espace-là, hein, de votre espace de circulation. Donc il est toujours ouvert du côté des coursives. On a ici des ouvertures, une sur le palier, une sur le couloir, qui sont ouvertes, il n'y a pas de fenêtre, c'est complètement ouvert, et on a les tasseaux de l'autre côté, un sur deux, hein, qui viennent juste un sur deux par rapport à la façade. Cette ouverture, on sera peut-être obligé d'en faire un peu plus d'ouverture, hein. Il y a un calcul à faire que le bureau de contrôle doit nous donner pour la quantité d'ouverture qu'on a entre un côté et l'autre. Le sol étant béton, les coursives sont en béton, donc on a une continuité de béton entre là et là, et l'escalier, lui, est entièrement métallique. Les murs sont tous blancs, sauf celui-là qui est traité comme vous allez le vouloir. Voilà. Ah, c'est pour que vous arriviez un petit peu à vous imaginer l'ambiance de cet espace. On a essayé qu'il soit ici. On est au sud, hein, donc on va quand même. Il va à peu près être lumineux. On a des fenêtres. Hein, on essayait depuis le début que ce soit un espace qui soit quand même assez agréable à vivre.
Il y a des fenêtres, les ouvertures. Quand on parlait des ouvertures.
Non. C'est
donc il y aura l'eau et les feuilles mortes dans les escaliers.
Non. De l'eau, oui, mais vous avez des barrages. Vous avez les lames de barrage qui sont une sur deux.
Qui descendent une sur deux.
L'un heure en hiver,
je pense à quoi. Ça va être plein de courants d'air.
Vous ferez une réception.
Alors, depuis l'esquisse, c'est comme ça, on en a déjà parlé plein de fois. Hein, donc aujourd'hui, je redis des choses. Hein. Si on veut entièrement la fermer, c'est pas du tout le même prix.
C'est pas pareil.
Parce que si on le ferme, on est dans un escalier qui va être empoisonné.
Ça veut dire ensemble menuisé à chaque étage. Fermé avec des
ports,
des châssis sur les fenêtres, et faire un long terminus de enfumage en haut.
Et l'escalier sera entièrement. L'escalier est ouvert et à l'air libre ou encloisonné.
Pas de choix.
Il est l'un ou l'autre. On est parti dans le système dont on parle depuis le début. On est dans un espace ouvert. Donc on essaye de protéger un maximum, mais on est dans un espace ouvert. Donc nous, par rapport à la réglementation qu'on doit suivre, on est dans un espace ouvert.
Qui a toujours été un espace ouvert.
Mais c'est des appartements.
Depuis le début, c'est comme ça.
Parce que dès qu'on décide de ne pas mettre ses portes en bas, c'est ouvert.
Soit on doit être complètement ouvert avec un certain pourcentage d'ouverture, soit on est fermé et on est complètement fermé. Il n'y a pas d'entre-deux.
Au rez-de-chaussée, c'est fermé quand même.
Non. Le rez-de-chaussée est fermé sur la rue.
Il y a une porte, oui.
Il y a une porte sur la rue.
Oui, pour des gens. Pourquoi? Mais derrière, on
n'a
jamais eu de porte.
Non, jamais.
Non. Mais dans la mesure où nos coursives sont en plein air, que l'intérieur de la cage d'escalier soit relativement plein air.
Je réponds à une question d'Élise, mais qui va. Il ne faut pas les boucher, ces fenêtres, dans le temps. Pour une première raison toute simple, vous allez tout de suite comprendre. Quand le vent va s'engouffrer là-dedans. Si vous n'avez pas une sortie pour le vent de l'autre côté, je ne vous raconte pas ce qui va se passer dans l'escalier. Et il y a quand même un risque au cas d'une grosse tempête, et que ça s'engouffre là-dedans, de soulever le toit. Hein, il est en béton, mais attention, il ne faut pas. Voilà, donc il y a déjà un risque structurel. Ces fenêtres sont obligatoires pour que le vent qui rentre ressort. Ah, oui, hein. S'il commence à s'engouffrer dans la cage d'escalier, ça va faire tout drôle. Hein. Donc il faut absolument que le... Donc, non, elles ne sont pas faites pour que vous les fermiez derrière. Elles doivent rester ouvertes. Si un jour vous les fermez, vous fermez tout. Mais surtout pas que les fenêtres.
D'accord. Et puis on pourra mettre des fils à linge partout parce que
ça va bien sécher. En parlant de fils à linge, donc dans la partie séchoir, vous vous souvenez, on avait déjà eu une discussion. Donc on a fait des ouvertures qui, elles, sont pareilles, sont totalement ouvertes, ont juste nos, les petits barreaux. Donc cette zone-là, elle est un peu dehors. Alors.
Oui, moi je pourrais rajouter des grilles à dentelles. Vous savez, les grilles avec les lames par pluie là, qui sont à 45 degrés,
oui.
Parce que si il rentre de l'eau à l'intérieur du séchoir, en dessous on est sous la chambre d'hôte.
Oui. Ah, oui.
Donc il ne faut pas qu'il y ait de désordre.
Non.
Alors il y a différentes solutions techniques. Il y en a une, c'est de faire un siphon de sol, des formes de pente, une étanchéité, etc. Donc, ouais, exactement, donc ouais, éliminé. Donc on a échangé ensemble, on a opté pour des grilles à dentelle qui laissent toujours la lumière un peu passer, mais surtout qui fait barrière à la pluie. Voilà.
D'accord. En fait, sur la partie de circulation, on n'a pas ce problème, puisque en fait, on est en circulation, on est toujours dehors. Alors que là, en dessous, on a une chambre
réelle
et isolée, habitée. Close, etc. Donc on ne peut pas se permettre qu'il y ait une goutte d'eau qui traverse le béton et qui arrête dans le cheveu.
Très bien. Alors c'est pareil au niveau jeu, tant qu'on est dans le séchoir. Dans la lingerie, moi j'ai prévu, on n'a pas échangé à ce sujet-là, mais on l'a vu hier, j'ai prévu un socle sur un résilient de manière à ce que les machines ne transmettent, les machines à laver, pendant les orages, ne transmettent pas le bruit dans les logements avoisinants. Alors par contre, le socle, moi j'ai prévu un socle de 2 mètres par 1 mètre, je ne sais pas combien de machines à laver, je ne sais pas quelle dimension on va faire.
6 plus.
Voilà. Et je ne sais pas où vous les mettez dans la...
Qu'est-ce que vous avez prévu?
Moi j'ai prévu les alimentations, d'eau et d'évacuation.
De combien de machines?
J'ai dû en prévoir 5.
5, hein, c'est le temps qu'on avait décidé la dernière
fois. 5 emplacements.
De toute façon, il y a 6 emplacements. Donc, il y aura un qui sera avec un évier. Il faut bien qu'il y ait dedans, il y ait un évier, non?
Oui.
Hein, donc, il faut juste un évier, peut-être juste un bac à bandeau. Hein, et les 5 autres qui sont des machines. C'est des emplacements 60-60. S'il y a des machines plus grosses, ça fera 5, ça fera 4.
Des machines plus grosses,
et on envisageait aussi, on avait parlé en réunion, un sèche-linge. Un sèche-linge électrique.
En fait, nous on vous prévoit arrivée évacuation pour 5 machines à laver. Vous pouvez les utiliser après et prises avec ce que vous voulez en fait.
Oui, oui.
Hein, ça va être des machines gros, j'imagine, des machines avec des gros volumes, des machines avec des petits volumes.
C'est ça, voilà, il y a 2 ou 3 volumes.
Et puis après, vous pouvez très bien mettre un sèche-linge, vous avez la chance.
À quoi c'est ça?
À condensation.
Oui, à condensation, forcément.
À condensation.
Vous avez à table de 5 éléments plus un évier. Un évier qui est petit.
Voilà, qui est un
60-60, un seul bac un peu profond.
Oui.
Oui.
La machine à café aussi.
Ça, c'est l'atelier.
Il y en a qui voulaient. Je reviens sur un tout petit point dont on avait parlé avec cette problématique de l'EDF, du compteur EDF qui doit être à l'intérieur. Et donc, la solution qu'on a trouvée a été de mettre en fait 2 portes, ouvrant chacune dans un sens, de créer un espèce de petit sas qui permet que ce soit à l'intérieur, que ce soit pas donc un sas, ça c'était pris pour de l'extérieur, donc on est à l'intérieur, mais on n'est pas non plus dans vos locaux communs à vous. Hein, donc on a à tous les étages cette double porte qui sera, je pense, à l'extérieur toujours ouverte, hein, pour que EDF puisse avoir accès à sa gaine, et l'autre que vous gérez vous avec vos propres clés et vos passes.
On pourrait la supprimer cette porte, si elle est toujours ouverte.
C'est juste une non, vous n'avez pas le droit.
Ah, une colonne EDF n'a pas le droit d'être située à l'extérieur.
Ah, oui.
Même si c'est dans une coursive, la coursive ne doit pas être ouverte.
D'accord.
Ils refuseront la colonne. Donc c'est une subtilité, entre guillemets, administrative et réglementaire, mais on n'a pas le choix.
Est-ce qu'on pourrait, parce qu'on a un peu réfléchi aux ouvertures des portes, est-ce qu'on pourrait inverser la porte qui se...
Oh, j'ai deux portes qui vont vers séchoir, ça sert à rien, hein.
Oui, c'est parce qu'il y en a une qui n'a pas été effacée. Hein. Alors, vous pouvez
choisir celle que vous voulez.
D'accord, on peut moduler ça.
Mais il n'y a aucune raison qu'il y en ait
deux portes. Oui.
Il n'y en a qu'une, vous me dites en haut ou sur le côté.
Et dans quel sens?
Et dans quel sens?
Dites-moi, on est en train de redessiner ces choses-là.
Okay. Vous me le redessinez.
C'est celle qui se trouve le long du mur. C'est celle qui se trouve le long du mur. Sinon, on va t'embêter, l'autre.
Oui, mais parce que le temps passe très lent.
Est-ce que vous avez des questions sur tout ce qui concerne le bâtiment dans sa globalité?
Oui. Toute petite, à un moment donné, mais il est peut-être trop tard pour revenir là-dessus, à un moment donné, les coursives avaient été rallongées parce qu'il y avait des portes-fenêtres. Mmh. Maintenant, il n'y a plus de portes-fenêtres.
Non,
on n'est pas. Ah, excuse-moi. Mais si jamais il n'y a plus.
Je pense que de toute façon, esthétiquement, même si on avait on remettait une allège par exemple, hein, avoir la rambarde qui arrive au milieu de la fenêtre, de toute façon, ce serait pas génial. Hein. Je pense que.
Non, c'est bon. Par contre, ça, c'est pas ma question, mais la personne n'est pas là. Pour les appartements au rez-de-chaussée, il avait été une question que chaque appartement pourrait avoir un petit jardinet devant.
Petite terrasse. Est-ce qu'il y a l'équivalent de la coursive qui est prévue en béton? Un peu de terrasse, ouais, sur la
même largeur. Donc ça veut dire qu'ils peuvent avoir leur jardin, mais que tout le monde passerait.
Toute façon, tout le monde passe obligatoirement le long de la coursive.
D'accord.
Donc après, c'est toujours. Vous l'aménagerez dans le jardin comme vous le souhaitez. Mais vous comprenez bien que quand on rentre. On prend cette coursive, cette coursive qui est en béton. Après, s'ils veulent se faire, si vous voulez faire des jardins comme ça, ben vous les ferez. Vous gérerez vous-même votre jardin global comme vous voulez. Mais ce qui est sûr, c'est que de toute façon, la coursive, elle est là.
Et le trottoir, le trottoir du rez-de-chaussée, il a un peu le même statut que les coursives, c'est-à-dire que chacun peut se l'approprier un petit peu dans la mesure où.
Absolument. Voilà, il y a un petit peu chez les gens, mais quand même avec un passage.
Oui,
mais ça, c'est l'aménagement du jardin que vous ferez à votre façon.
Merci.
On va passer sur les logements. Je vous laisse un petit peu expliquer le global. Vous voulez que je... Ça va me faire un petit peu...
Donc, vous présentez globalement les logements et puis je vais enchaîner.
Je ne vais pas présenter globalement les logements parce qu'il n'y a pas de présentation globale à faire. Mais il y a des généralités.
Ah, bah des généralités.
Il y a des généralités sur les logements, dont je vous ai parlé tout à l'heure de la règle d'accessibilité handicapée qui sera le jour de la réception. Il y a deux choses qui vont être faites, c'est que vous, individuellement, vous n'aurez pas intervenu dans votre logement. Hein, c'est-à-dire que quand vous allez faire des interventions personnelles, elles seront faites après le jour de la réception. La deuxième chose, c'est que le jour de la réception, le bâtiment, il est conforme en tout point pour qu'on ait, donc, comme on vous parlait tout à l'heure par rapport au bureau de contrôle, un RSCP vierge. Et entre autres sur la réglementation handicapée. Vous allez voir, donc je vous ai amené, hein, les plans, ils sont là, on ne va pas les regarder tous en détail et ni parler de chaque logement parce qu'on y passerait trop de temps aujourd'hui. Je n'ai pas pu répondre obligatoirement à 100% des demandes que vous avez faites. Parce que les chambres, par exemple, handicapées, doivent rester des chambres handicapées. Rien ne vous empêchera derrière, dedans, d'y faire des placards, des trucs et des machins. Mais nous, on doit les livrer conformes à la réglementation. Donc on a fait tout au mieux pour répondre à toutes les règles d'exigence qu'il y a. Et je ne peux pas vous les donner.
Il y a aussi une règle en PSLA qui veut que nous avons effectivement donc une phase locative, un produit qui, de par la location, fait que nous assurons les finitions du logement. On n'est pas sur de l'individualisation de tous les logements qui sont en PSLA. Nous sommes effectivement sur un logement qui est livré avec ses sols, hein, qui est livré donc avec ses équipements. Ça n'est qu'à l'issue d'une phase d'acquisition où les personnes pourraient être amenées à le transformer à leur volonté s'ils le souhaitaient, mais pour autant, nous ne sommes pas sur de l'individualisation. Voilà, on peut pas faire ça. Sur les finitions, par exemple, en PSLA, on livre un produit qui est fini. Si en accession libre, des gens souhaitent effectivement conserver la réalisation de tel ou tel travaux postérieurement, donc effectivement, donc à la réception, pour autant, sur la phase PSLA, nous devons livrer un produit fini.
Ça, ça veut dire par exemple que tous les sols sont livrés PVC
pour les PSLA.
Pour les PSLA, oui.
Et il n'y a aucune dérogation possible à ça.
Pour moi, ou alors ils sont tous effectivement donc en parquet, ou ils sont tous, mais après ça va être une question de coût, hein, manifestement. Donc nous on est parti sur la base, on est en PVC.
Non, mais enfin, je reste une question dont on va reparler, parce que effectivement on a posé cette question en disant est-ce qu'on pourrait avoir des devis, parce qu'effectivement c'est une question de coût. Ouais. Donc ça serait intéressant qu'on ait des devis. Alors, de façon à ce qu'on puisse se dire entre nous, bon, jusqu'où on va, est-ce qu'on peut se permettre ça ou pas, parce que c'est clair qu'on préfère.
Alors, ce qui est compliqué, c'est que certains d'entre vous vont faire des travaux par eux-mêmes, d'autres souhaitent le faire donc effectivement donc par entreprise. Ce qui se fait classiquement dans la promotion privée, hein, lorsque vous achetez donc en VFA, il y a deux bases pour tous les logements. Le logement, il est livré en produit fini, comparativement par exemple par rapport au PSLA. Et les gens, lorsqu'ils viennent à demander des sollicitations, ils le font en dehors de ce qui est passé directement avec le promoteur, hein, ils voient avec l'entreprise. Donc, pour encadrer ce type éventuellement de démarche, il pourrait être demander pourquoi pas quelques prix aux entreprises pour que vous... Mais ça, on va le gérer, vous allez le gérer indépendamment du promoteur, du maître d'ouvrage, hein, d'une part, et d'autre part, en PSLA, non. En PSLA, on part sur quelque chose qui va être pour tout le monde. Ça me paraît de toute façon bien trop compliqué en matière de coûts. Les adaptations individuelles font peser sur l'ensemble de la collectivité, hein, des prestations qui pourraient être demandées par les uns ou par les autres.
J'ai une question. Par exemple, une cloison qu'on aurait prévue dans la salle de bain pour isoler les WC, par exemple. Donc, selon nos goûts, notre salle de bain ne serait plus PMR. Mais la cloison peut être abattue.
Alors, c'est très souvent le cas, voilà. Et c'est noté. Hein. Je vais vous montrer l'exemple. Est-ce que j'en ai un dans ce plan? Donc, oh là. Hein, donc, par exemple, ici, il est spécifié clairement que cette cloison ici. Oui. Et démontable. Le jour où elle est démontée, ma salle de bain est accessible.
Et la question que vous posez, vous, c'est savoir si on peut ne pas la mettre à l'origine. Voilà.
Si je suis PSLA, moi je désire cette cloison-là, est-ce que je serai livré avec cette cloison-là?
Ah oui, oui, oui. L'adaptabilité, comme ça s'appelle, hein, elle peut être faite n'importe où, n'importe quand. Cette règle-là, elle n'est pas spécifique à la particularité de votre projet, elle peut être faite dans n'importe quel bâtiment locatif, etc. Hein, c'est quelque chose. On ne doit pas avoir de gros œuvres ou de choses qui empêchent un jour l'accessibilité. Hein, donc on ne peut pas avoir, par exemple, sur certains, un GTL, hein, c'est là où arrive l'électricité, c'est à un endroit, ça ne bougera jamais. Un mur, il est là, il ne bougera jamais. Une gaine technique, elle est là, elle ne bougera jamais. Alors qu'une cloison, si dessus il n'y a pas une baignoire, un lavabo, etc., il suffit juste de l'enlever, les travaux sont minimes.
Par contre, si en tant que PSLA, j'ai ce plan-là et je voudrais du parquet dans ma salle de bain, là je serai livré avec le PVC.
Oui.
Oui. D'accord, on est bien.
Et
bien.
Puis du parquet dans une salle de bain.
Et oui, oui, oui.
C'est pour vous faire rêver.
Un parquet flottant, quand tu lèves l'avant, t'as un parquet flottant dans la salle de bain, c'est qu'il flotte assez rapidement.
Vous faites ce que vous voulez.
Est-ce qu'il faudrait pas envisager que le PVC soit le moins nocif possible, voire que ce soit du lino? Pour les
PSLA, c'est
dans un éco-habitat. Et
c'est possible, mais c'est une question de coût.
Oui,
si vous en êtes d'accord, vous l'acceptez. Et puis, mais après, il y a des limites à tout. Quoi. Si on a notre ascenseur, on est passé ci, on est passé ça. Et au final, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, on revient à vouloir effectivement donc étrier un petit peu le budget. Donc, si vous le décidez, vous le décidez tous. Et puis, on peut effectivement faire du lino. Hein. Alors après, on peut vous dire combien éventuellement ça coûte. Mais voilà. Après, voilà, donc il y a quand même une différence de coût qui est substantielle entre les deux. Hein. Je ne sais pas, mais je suis à 30 euros du mètre, par exemple, en PVC. En lino, vous êtes à combien? Vous êtes à 50? 45, 50. Hein, donc, vous voyez, donc, sur la partie sol, 50 mètres. Voilà, c'est ça.
Posé.
25 mètres, oui, c'est ça, hors taxe. On parle en hors taxe. Hein. Vous êtes à 15 euros, c'est ça.
C'est pour ça que c'est intéressant
de demander
des notions de coût.
Alors retenez ça, 25 euros hors taxe, c'est à peu près la différence entre les deux.
Alors oui, ce que propose Élise, c'est qu'éventuellement on mette une option du remplacement du PVC par du lino.
Ça, on peut le mettre.
Alors attention, le lino, pas dans les salles de bain.
Non.
Et dans les cuisines.
Ah oui.
Pourquoi? Le lino, c'est à base de bois. Le lino, c'est du bois, donc c'est un matériau qui se dilate, donc il n'a pas d'eau à proximité du lino. Donc, salle de bain, c'est proscrit. Et dans beaucoup, on a des cuisines qui sont ouvertes sur les salons, et avec un évier lino.
C'est souvent avec trois lombaires qu'il y a du carrelage.
Le lino, c'est pour les pièces sèches. Le lino, c'est les pièces sèches. Grosso modo, donc on peut mettre effectivement donc une option, une variante au marché. Pour les pièces sèches, je vais mettre un lino. Comme ça, après, on a la faculté. Mais c'est tout le monde ou personne.
C'est pas la découverte.
C'est pas.
Une grosse Ensuite, pour les non-PSLA, le choix qu'on vous a proposé, c'est vous faites ou vous ne faites pas. Hein, c'est-à-dire que voilà, nous, on vous a donné un certain nombre de finitions, et maintenant, vous avez d'ailleurs tous répondu, oui, je fais, je ne fais pas. La peinture, je la fais ou je ne la fais pas. Le sol, je le fais ou je ne le fais pas. Même les meubles sanitaires, je les prends ou je ne les prends pas. Hein, voilà, donc ça, c'est des choses. Pour les non-PSLA, vous avez le choix. Alors, c'est ingérable pour nous de répondre à chacun. Moi, je voudrais que ce soit rouge, vert, avec ça, blablabla. Donc, c'est soit c'est fait comme tout le monde, soit on ne fait pas, on livre compte.
Et c'est moins cher.
Alors, ça, c'est un autre sujet qui ne me concerne pas.
De toute façon, il y aura un prix de base et auquel cas, effectivement, s'il y a des choses, on verra ce qui a retranché ou ce qui a.
La logique serait que les prix soient le même pour tout le monde parce que c'est une complexité quelque part de ne pas le faire.
C'est-à-dire que par exemple, si on prend pas le PVC au sol et qu'on veut mettre un parquet, on paiera comme si on avait un PVC, c'est ça?
Ça me paraît très logique, mais.
Il y a moyen de négocier, non?
Et puis ça veut. La différence va pas faire non plus. Ça va pas faire une différence grandiose. Hein.
Si tout cumulé,
De toute façon, si vous mettez un parquet, quel type de parquet? Attention au bruit en dessous. Est-ce que vous allez mettre une sous-couche? Très souvent, il y a des gens qui sont amenés à poser un parquet sur le PVC qui va constituer de fait la couche. Donc nous, on serait plutôt partant de partir en PVC et puis vous pouvez mettre par-dessus, pourquoi pas, un petit parquet flottant. Il y a quand même des contraintes. Il y a la contrainte du seuil. On a 2 cm au niveau du seuil, première contrainte. Deuxième contrainte à l'intérieur du logement, c'est qu'on a des étalonnages au niveau des portes. Il faut certainement maintenir une épaisseur de détalonnage balayage par rapport à ce qui est ventilation à l'intérieur du logement, le balayage permanent donc à l'intérieur du logement. Voilà, donc il y a certainement à détalonner un peu les portes hein, si vous êtes amené donc à devoir poser un parquet après. Mais c'est surtout les 2 cm du seuil qui est souvent la contrainte la plus importante.
Pour avoir du bois massif, ça veut dire que c'est forcément un parquet collé.
Un parquet collé.
C'est quoi, un parquet collé?
Et c'est moins épais
possible.
Ouais. Parquet collé, on est sur 16 mm. 16 mm. On est inférieur, on est moins, on est plus bas que.
Parquet collé, c'est bruyant.
Ah non, moins que le parquet flottant.
Moins que le parquet flottant.
Ah ouais. Ah, parce qu'il adhère complètement au sol, quoi. Hein. Donc c'est vrai que c'est beaucoup moins. Puis ça claque pas comme un parquet flottant qui clac. C'est un parquet flottant.
Ouais, mais il y a plus de bruit solidien aussi. Pardon. Vous avez quand même des bruits solidiens. Les bruits d'impact.
Les bruits d'impact.
Comme ils sont sur.
Non, c'est quand même une dalle de 10.
Une dalle de 25.
C'est ce que j'allais dire. Donc, c'est bon. Il n'y a pas de dalle.
On a des dates qui sont assez balèzes.
Hein.
Petite question, le plan là, c'est celui qui est retenu ou il va encore être modifié? Parce que là, par exemple, c'est mon appartement et c'est par exemple, j'avais demandé la porte de la chambre soit décalée vers la droite.
Non, alors, il y a encore un certain nombre de remarques qui n'ont pas été réintégrées parce qu'une fois qu'on a eu vos remarques, celles qui ont été tardives, nous, les plans, ils étaient déjà partis au bureau d'études et tout ça. Donc, pour avoir un ensemble,
vous pensez que c'était pas tardif depuis le début, je demande le décalage de la porte et elle est toujours là, c'est pour ça que.
Non, mais ça, on les a tous de consigner les différents
plans. Les plans qui sont ici, on va vous les rediffuser. Et chacun va refaire. Alors attention, hein, on ne remodifie plus de logement. Hein, c'est des remarques de décalage de bord qui n'a pas été faite. Voilà, hein, mais il n'y a plus de remodification forte dans les plans. Hein, c'est de la petite adaptation. Et sur lequel on vous répondra au fur et à mesure sur la. Oui, c'est possible avec l'accessibilité handicapée. Non, c'est pas possible. Hein, voilà. Parce qu'il y a des choses. En général, quand c'est pas répondu, alors ça peut être comme ça parce que c'est passé. Je vais vous dire peut-être un peu à la trappe. C'est possible. Hein,
Je sais, mais je l'ai redessiné au feutre sur les plans. Je vois très bien de quoi il s'agit, mais ça va être modifié pour la prochaine fois. C'est juste dégager la porte et réduire la cloison. C'est
voilà.
Pour rien.
Et réduire la cloison.
La cloison, il y a le placard.
Il y a des bords énormes.
Ouais. Voilà. Oh, elle était marquée justement. Alors j'ai vu la flèche à l'envers. J'ai cru que j'ai agrandi.
Oui, j'avais demandé 20-25 cm juste pour aller à une borne.
J'ai cru que c'était 20-25 cm en plus de ce qu'il y avait déjà. Voilà, vous avez la réponse aussi. Parce que je me souviens bien de l'avoir repoussée. D'accord. Bon, ça c'est. Voilà,
oui, c'est ça, c'était juste pour savoir.
D'accord. Ça, vous allez chacun revoir les plans. On les a ici en papier, donc après, vous allez en avoir un jeu papier que vous pouvez photocopier, ou vous en aurez un jeu informatique que chacun peut imprimer comme il veut, et sur lequel vous nous referez les remarques. Hein. Là, nous, on vous donne le général. Hein. Donc, vous allez voir à chaque fois donc, les cloisons quand elles sont démontables, hein, comme ça, dans les choses. Donc, quand souvent ça arrive, alors, on va avoir un rond hein, qui va venir sur la cloison, puisque c'est une cloison qui sera le jour où accessible. Il y a une nouvelle règle qui a été qui est aussi passée, donc c'est ce rectangle que j'ai rajouté partout. Les douches font obligatoirement 90-90. Voilà. Et on doit avoir à côté de la douche un rectangle de 80x130. Hein, donc vous allez voir qu'il y a certaines salles de bain qui ont un tout petit peu grandi pour qu'on puisse répondre à ça. Globalement, c'est à peu près rentré partout. Il doit y en avoir une ou deux.
Juste pour finir par rapport aux douches, donc c'est des receveurs encastrés. C'est pas des douches à l'italienne, des siphons. C'est des receveurs.
On est dans des receveurs encastrés qui restent à moins de 2 cm de haut. Qui restent là. Hein?
Des bacs à douche.
Oui, c'est des bacs à douche.
Des
bacs à douche. Des bacs à douche.
Maximum.
Non, c'est vraiment presque comme une douche à l'italienne, mais ça reste un receveur.
90-90. Le rectangle est 80-130.
C'est quand même assez pour les bouteilles.
Oui, mais 2 cm, c'est admis par un an.
Ça prend dans son énorme.
Non, mais c'est le maximum.
Non, non, j'ai bien, mais ça.
Je redis, nous, la règle, on la prend comme elle est.
Oui, je l'apprends.
On n'y réfléchit plus parce qu'on peut y réfléchir pendant très longtemps de remettre en cause les règles. On prend les règles telles qu'elles sont et on ne se pose pas de questions.
Après, c'est maximum 2 cm. Donc,
mais pourquoi avoir fait un rebord alors?
Un rebord.
C'est la tolérance.
C'est la tolérance.
En fait, un bord de douche, c'est un tout petit peu rond. Si ce tout petit peu rond, on l'encastre, l'eau, elle va rentrer là-dedans, pourra jamais étancher.
Parce que moi, j'avais entendu parler de douche à l'étalier.
Alors, elles sont quand même ouvertes. Parce que ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que nous, ce qu'on vous livre, on vous livre un bac à douche encastré avec une barre de douche et son truc. C'est tout. Le reste est vierge. Normalement, pour à partir du moment où c'est vous qui poserez soit des rideaux, soit des portes, ce que vous voulez. Ce qu'on a fait dans pas mal de salles de bain, on a décalé les fenêtres, etc., pour que le bac à douche soit toujours hors fenêtre, bien sûr. Donc ça, c'est très important pour qu'on puisse savoir que de toute façon, l'étanchéité d'une fenêtre dans un bac à douche, c'est un peu compliqué. Donc voilà, donc nous, on vous livre un lavabo, un bac à douche, un WC. Ça, multiplié par le nombre de salles de bain qu'il y a, est tous identiques. On a Monsieur Guillou vous a proposé dans la base,
dans le CCTP,
vous avez les photos de ces éléments qui vont être faits. Vous pouvez choisir autre. Ça doit répondre à toutes les normes de c'est-à-dire que vous pouvez nous faire d'autres propositions, elles seront validées par nous, c'est-à-dire que ça doit répondre à un certain nombre de normes de solidité, etc., etc., et rester au même prix.
Alors j'ai volontairement dans un premier temps indiqué les marques de référence des appareils sanitaires pour que vous puissiez bien les visualiser. Par contre, au moment de l'appel d'offres, pour respecter le code des marchés publics, on va retirer les marques et donner que les caractéristiques techniques pour éviter de pour respecter
l'obligation
réglementaire
et les concurrence.
Moi c'est pareil dans mon dispositif, j'ai indiqué les marques.
Pour l'instant.
Ça permet d'aller les voir en vrai.
Ça permet d'aller sur Internet, de regarder, de voir comment
on ne pourrait pas non plus interdire à une entreprise qui a répondu, dès lors qu'elle présente un produit équivalent, vous ne pouvez pas l'interdire non plus.
Non, alors parce qu'on n'a pas le droit d'imposer un produit, il doit exister au moins trois équivalents techniques. C'est-à-dire que l'entreprise, lorsqu'elle va répondre, si elle répond avec un équivalent technique, alors équivalent technique, j'entends l'épaisseur de l'émail, si on est en acier ou en... Enfin, des caractéristiques techniques, on n'a pas le droit de lui refuser si c'est un équivalent technique. C'est la loi.
Et du coup, pour le meuble vaste, oui, vous avez un produit qui est proposé. Si vous choisissez, pour ça, il faut choisir tous le même. Quoi. Voilà. Globalement, on
peut changer un autre base modèle,
mais c'est tous le même.
Oui.
Idem pour aujourd'hui, ce que vous avez proposé, vous, au niveau du lavabo, c'est le lavabo accessibilité handicapée. Alors, vous n'êtes pas du tout obligé de le prendre. Le lavabo accessibilité handicapée peut très bien être mis derrière. Nous, ce qu'il faut, c'est que dans les plans futurs, il puisse rentrer. Ça, par contre, le lavabo, vous pouvez vraiment choisir autre chose.
Capable.
Donc, on peut choisir. Voilà, c'est tout. C'est-à-dire que le lavabo, on l'enlève et on en met un handicapé le jour où il y a besoin. Mais vous n'êtes pas du tout obligé de choisir. Sont pas obligatoirement très facile, très pratique en base.
Ouais.
Dans ce qu'il y a aussi à choisir, c'est le l'épi.
Ouais.
Donc dans les cuisines, on pose. Dans les cuisines, on vous pose un évier, c'est tout. Tout le reste, vous mis en petits pointillés, la façon dont vous voulez poser les meubles cuisine, etc. Mais nous, en tout et pour tout, on vous met un évier. Donc il y a à positionner cet évier. On va prendre cet exemple. L'évier était positionné ici, donc devant la fenêtre, parce que c'est à ça que je veux venir. Attention aux éviers qui sont posés devant les fenêtres. On peut ouvrir la fenêtre en oscillo avec l'évier en dessous. On ne peut pas rarement l'ouvrir comme ça. Donc c'est à vous de voir, mais donc dans le positionnement de votre évier, faites attention à ça.
On peut le modifier dans la limite des réserves, des réseaux d'évacuation.
Oui.
C'est un peu compliqué pour.
On va
mettre à reposer du coup. Il faut que je puisse évacuer quand même.
Voilà, hein, il faut. Après, c'est ce qu'on avait dit dans le positionnement des éviers. Essayez plutôt d'aller vous rapprocher des gaines, sachant que vous aurez, quand on est loin des gaines, bon, on est au rez-de-chaussée, c'est différent. Au rez-de-chaussée, les gaines, elles partent directement dans le sol. Mais sur les étages, si on a un évier ici et que la gaine est là, on va avoir quelque chose qui va passer en apparent de là. Donc très souvent, si c'est sous les meubles de cuisine, etc., ça peut le faire, c'est pas gênant. Mais attention, à chaque fois que vous éloignez les éviers des gaines, on a un
réseau qui vous avez les plans, vous avez déjà le plan, mais il y a les plans d'élotechnique, c'est des plans particuliers. Vous avez tous les réseaux qui sont indiqués en couleur. Vous pouvez consulter pour
vous. Vous pouvez les consulter, vous les aurez tous.
Bon courage. Il y a un parallèle, c'est bon pour l'électricité.
On comprend quand même.
Alors, moi je voudrais revenir sur la position des pieds. Vous êtes sûr qu'on ne peut pas mettre les pieds sous la fenêtre? C'est impossible d'ouvrir les fenêtres avec la robinetterie.
Oui. Il existe des robinetteries qu'on peut rabaisser. Par contre, leur espérance de vie est relativement
courte. D'accord. Ça veut donc dire que les fenêtres, elles sont à quelle hauteur?
Je ne sais plus l'allège qui
est. 110, non?
Oui, c'est une question. L'allège des fenêtres.
De cuisine.
Parce que si elles sont à 110, enfin, moi j'ai mesuré chez moi. La fenêtre est à 110, mon plan de travail à 90 et j'ai absolument aucun problème.
Mais nous, les fenêtres.
Vous avez un col de cygne, parce que souvent c'est la robinetterie avec son col de cygne.
Oui, enfin, la robinetterie peut être plus standard, mais n'empêche que c'est possible du coup de mettre les pieds sous la fenêtre.
De toute façon, si l'allège le permet, vous pourrez quoi qu'il arrive le mettre. Par contre, il existe des robinetteries justement qu'on peut abattre pour pouvoir ouvrir la fenêtre. Par contre, c'est vrai que ces robinetteries, ces fameuses robinetteries, leur durée de vie est divisée par deux.
Moi, donc ma question porte sur la hauteur des fenêtres.
La hauteur d'allège, du coup, on est.
La hauteur d'allège.
Et on avait justement.
On a changé les dimensions.
J'ai pas pris mon petit papier.
Parce que si c'est 1m10, franchement, je vous assure, je le vis tous les jours.
Oui, mais c'est pas 1m10. Sauf que 1m10, c'est pas ouvrable pour une personne en fauteuil roulant. Donc c'est pas 1m10. Elles vont toutes être entre 4. Alors, et d'ailleurs, mais. Parce que, si ça se trouve, on ne peut jamais mettre un évier devant une fenêtre.
À cause de la règle.
Ah, parce que ce serait plus. Elles sont plus ouvrantes. Elles ne pourraient plus être ouvertes par une personne en fauteuil.
Sinon, après,
il
faut prévoir des systèmes d'ouverture spécifiques.
Donc, en fait, la règle, elle va être claire, c'est aucun évier devant les fenêtres. C'est encore pire.
Au lieu de mettre l'évier devant la fenêtre, il suffit de, pour mon siphon, décaler la pente.
Non, en dehors de
l'évier. Voilà, donc c'est par logement du
tout. Tu ne peux pas décaler la fenêtre.
Ça, c'est une chose que les gens doivent savoir. Parce que si, le GV, c'est.
Si on peut mettre des
couches sur la plage, tu traverses les portes, tu vas un peu dans la douche, un peu dans l'évier.
Juste une précision, parce que je vois limite Sophie, je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est Sophie, c'est un faux plafond. C'est-à-dire qu'en fait, pour pouvoir passer les réseaux d'un appartement à l'autre, il y a des zones, en fait, a priori, au maximum, on n'a pas mis de faux plafond, donc on a la hauteur maximum, c'est directement
Dans chaque pièce, c'est écrit.
Voilà.
Veuille séjour, hauteur sous plafond, 2,50 m, sol PVC. D'accord. Dans chaque pièce, les choses sont écrites. Ici. Hauteur sous plafond, 2,35 m, donc il y a un faux plafond. Limite du soffit à 2,35 m, ce qu'on appelle un soffit, c'est la limite du faux plafond qui existe. Ce faux plafond, les faux plafonds vont servir pour deux choses, soit pour récupérer des gaines qui sont décalées de l'étage du dessus, soit pour passer les gaines de ballon thermo. Hein, ici, par exemple, on est dans le principe où il faut qu'on aille le ballon thermo ici, il faut qu'on emmène des gaines jusqu'au sanitaire. Hein, donc, on a ce soffit pour aller jusque-là.
Et on a il y aura une différence dans le plafond
de 15 cm.
Donc on verra ça.
Voilà, okay. Tout à fait.
Okay.
Donc il y a peu de logements comme ça, mais vous allez voir, il y en a quelques-uns. En général, c'est fait sur les pièces entières. Mais très souvent, et d'ailleurs, il faut qu'on re-regarde parce qu'il y a des endroits où on a fait des pièces entières où je pense que c'est pas la peine. On va pouvoir optimiser
Et l'autre pointillé aussi sur le côté, c'est les poutres, parce que là vous vous souvenez qu'on a une structure béton avec des poteaux et des poutres et puis des murs bois qui viennent autour. et qui ne viennent pas dans l'épaisseur des poutres pour justement être meilleurs du point de vue thermique. Donc ça, c'est les poutres. Donc c'est pareil, on a une hauteur sous plafond, sous les poutres. Enfin, on voit les poutres apparentes sur les... Alors, la longueur
ici,
des façades.
Ici, vous voyez les poteaux.
Voilà, et c'est les poutres qui correspondent.
Les poteaux. Et ça, c'est la poutre qui fait tout le tour et qui...
Et c'est ce qui explique, Marie-Pierre a dû vous en parler, il y avait certaines fenêtres en fait qui ne passaient plus avec le volet roulant, il y avait des hauteurs.
Il y a deux choses. Dans les hauteurs de fenêtres qui avaient été vues avec vous et Marie-Pierre, il y avait 5 cm de trop pour passer la poutre. Hein, donc elles ont toutes été rabaissées de 5 cm pour passer sous la poutre. Le volet roulant,
c'est la coursive, ça peut être ça.
Non, ouais, le volet roulant, lui, est dans la partie bois, donc il est extérieur à cette poutre, mais ce qui n'empêche qu'il doit venir, tout doit venir s'aligner avec cette poutre. Et la problématique qu'on a eue pour certaines chambres où il y a des volets roulants, c'est quand on a la structure de la coursive qui arrive, qui rentre qui traverse cette structure, le volet roulant, ça passait pas tout ça. Donc c'est pour ça que il y a certains qui ont vu, soit on décale la fenêtre. Soit on supprime le volet roulant, avec des choix qui ont été différents pour les uns et pour les autres. Mais il y avait, c'est surtout en général un peu toujours. Ça a toujours été la même fenêtre qui a posé problème.
C'est au-dessus, parce
qu'on n'a pas au rez-de-chaussée. Hein, c'est la fenêtre aux autres étages qui est ici. Hein, la fenêtre de la chambre qui est ici et dans lequel, à chaque fois, on avait cette poutre qui arrivait. Ah, donc chacun a fait son choix dans ce qu'on avait proposé. Pour continuer un petit peu,
j'ai pas pour l'évier. Vous avez dessiné des éviers assez grands, deux bacs. Est-ce qu'il est possible d'avoir un évier un tout petit peu plus petit, notamment?
Alors l'évier, on redit exactement pareil que pour le reste. Mmh. Vous allez le choisir tous ensemble.
D'accord.
Mais ce sera le même pour tout le monde.
Ah, ce sera le même. Ah, pour tout le monde.
Ce sera le même pour tout le monde.
Quelle que soit la typologie.
Si c'est 35 mètres carrés ou 90.
Ah, c'est vrai qu'on peut peut-être mettre deux.
Peut-être, oui.
Ça serait
60 par 60. Oui. On peut avoir deux choix d'évier,
oui.
Suivant le. C'est simplement le même logique.
Oui, c'est vrai.
Les entreprises, une personne de
90-60. C'est pas une question.
Localisation.
Non, c'est une question.
Oui. C'est une question d'encombrement.
Ça fait partie des marges de manœuvre qu'on peut avoir.
Ouais. Ok.
Par contre, le type d'évier, c'est important. Évier résine ou inox. Il faut que ce soit les mêmes gaps.
Pour tout le monde.
Oui.
Avec évidemment la possibilité pour les non PSLA de ne pas le prendre du tout et de...
Voilà, après il y a toujours la possibilité de ne pas prendre des pieds du tout. S'il y en a qui pensent prendre un cuisiniste par exemple qui va faire tout l'aménagement de la cuisine, vous ne prenez pas les pieds. Hein, il est sorti complètement du... Voilà, on peut ne rien mettre.
Justement, à propos de cuisiniste, on se demandait si ce serait possible de contacter si vous aviez des références de cuisinistes, parce qu'on se disait si on faisait faire nos cuisines tous par même cuisiniste, on aurait une chance d'avoir des prix intéressants.
Bah, vous pouvez le faire, mais en dehors de nous, qu'est-ce qui interdirait
Le moins cher, c'est de prendre un menuisier et tout commander chez Ikea et de le faire monter par votre menuisier. Ça, c'est ce qui sera le moins cher.
On continue parce qu'il y a encore pas mal de choses à voir.
Au niveau de l'électricité, donc il y a pareil, vous allez trouver là les plans. Donc il y a les plans des logements et vous avez le plan élect de chacun des logements. Vous vous souvenez le nombre de prises, le nombre, vous ne changez pas les noms. Vous pouvez changer les emplacements.
Les emplacements, par contre, l'entité sont figées par la C1500. C'est-à-dire que le consulat de la livraison va venir vérifier que les quantités sont respectées. Et là, il n'y a aucune dérogation possible.
Par exemple,
les emplacements, vous pouvez aller un petit peu les...
dans la même pièce. Parce que par exemple, je sais qu'il y a une des questions, c'est de ne pas avoir de prise RJ45 dans une chambre, mais d'en avoir une de plus dans le séjour.
Ah bah ça en plus. Ah bah, plus
non, mais ça veut dire. Non, plus dans la chambre. Il y en a
alors, le nombre de prises par pièce est inchangeable.
Et travailler la pièce. C'est-à-dire que d'une pièce, vous avez une prise de 20-30 cm. Okay. Par contre, vous ne pouvez pas prendre une prise de la chambre pour la mettre dans le salon.
C'est
une prise de courant, quoi que ce soit, c'est interdit.
Une prise par mètre carré. Pour 4 mètres carrés.
Ça, non, c'est plus, un peu c'est plus compliqué valable, que ça. Dans le séjour, c'est
non, un séjour.
Forfait de 4 ou 5 prises plus une par 4 mètres supplémentaires dès qu'on dépasse 35 mètres carrés en mémoire. Enfin, c'est une règle un peu complexe.
Ça va aller, ça.
C'est pour ça que si vous avez des plans conformes, donc oui. Vous pouvez, entre guillemets, vous optimiser ces plans en déplaçant les prises. Par contre, non, supprimer surtout pas.
Vous n'en supprimez pas, vous n'en rajoutez pas. Le nombre reste le même, identique, pièce par pièce. Vous les bougez, si vous les bougez mal, on les remettra.
La prise à 1m10 à l'entrée de chaque pièce de vie, conforme à l'accessibilité handicapée, mais ça c'est 1500. Oui. Et dans la cuisine, j'ai 6 prises, donc 4 à hauteur de plan de travail. Et c'est pareil, c'est réglementé. On n'a pas de marge de manœuvre.
De toute façon, on remettra. Hein, donc faites un premier.
Faites votre premier jet.
Et quand nous, on va le recorriger, on le remettra conforme. Hein, de toute façon.
Il est possible que vous disiez bon.
Voilà. Donc je vais continuer d'ailleurs donc par rapport à toutes les demandes de manière générale qui ont été faites, pour repréciser un certain nombre de choses. Donc les placards ne sont pas prévus, c'est vous qui les posez, il n'y a aucun placard de prévu.
Alors, c'est pareil, vous pouvez aussi faire un appel d'offres sur l'ensemble des placards.
Nous on fait la cloison qui porte le placard si l'accessibilité handicapée le permet. Hein, c'est-à-dire qu'il y a des chambres, par exemple, dans les chambres PMR, il y en a beaucoup qui ont mis des placards, on ne fera aucune cloison, vous aménagerez tout seul parce qu'on n'aura plus, on n'est plus PMR par rapport à ça. Il n'y a aucune cloison coulissante de prévue. Hein, donc ça, c'était l'autre point qui a souvent été demandé. Il a été demandé les vitrages floutés dans les salles de bain et les portes d'entrée. Alors, dans les salles de bain, elles le seront toutes. Et après, alors, toutes les choses dont on va parler là peuvent être mises en cause, mais pour tout le monde. C'est-à-dire que dans les salles de bain, soit elles sont toutes floutées, soit elles sont aucune. Ça paraît logique, en général, on les floute toutes dans une salle de bain. Hein, voilà. Pour la porte d'entrée, les portes d'entrée sont prévues transparentes. Si vous les floutez, c'est toutes floutées ou aucune. Après, il est très facile, s'il y en a un qui l'a vu flouté, de poser des films dessus, à l'intérieur, vous posez un film s'il y en a une personne qui l'a vu flouté, parce que sinon c'est compliqué.
Éviter qu'il se...
Alors, j'ai spécifié une chose, qu'il y en a qui demandent des tailles de fenêtres différentes. Les fenêtres, il y a, 4 fenêtres prévues, on vous les a données, elles ont été validées. On est toujours dans cette histoire d'allège entre 90 et 100, suivant la règle incendie et la règle... PMR, hein, donc ça va se gérer avec le bureau de contrôle, mais celles qui ont été décidées qui sont entre 90 et 100 seront entre 90 et 100 toutes. Hein. Il n'y en a pas une à 70, l'autre à 70, l'autre à machin. Elles auront toutes la même hauteur. Sauf celles des salles de bain qui sont plus hautes. Hein. D'accord, je parle de celles qui sont.
Oui, excusez-moi, moi je sais qu'effectivement pour la fenêtre d'une des chambres, j'avais demandé, vous savez, il y a une chambre que je veux pouvoir mettre à disposition avec une porte d'entrée extérieure, et donc vous m'avez mis en fenêtre, une petite fenêtre de salle de bain en hauteur, et donc je demandais que ce soit une fenêtre...
Alors, soit on est dans une fenêtre de chambre à deux vantaux, soit on est dans une fenêtre de salle de bain. Si mes souvenirs sont bons, mais peut-être que je me trompe, ce cas-là, une fenêtre de chambre ne rentre pas. Il y en a déjà une, c'est une deuxième fenêtre qui est dans la chambre.
Non.
Il y a une porte extérieure.
C'est parce qu'au lieu d'avoir une fenêtre, j'avais demandé une porte extérieure. Oui. Effectivement, la porte extérieure ne permet pas de laisser la porte aérée. Vous voyez, bon. Donc l'idée, c'était de mettre une petite fenêtre. Et effectivement, on parlait d'une grande fenêtre. Donc l'idée, c'était de mettre simplement une demi-fenêtre.
Alors,
c'est un peu un cas exceptionnel.
Oui, et alors justement.
Dans une chambre, une fenêtre de salle de bain, c'est vraiment.
Je suis entièrement d'accord avec vous et toutes vos demandes, elles sont toutes très logiques. Par contre, on est sur un immeuble complet. On ne peut pas avoir une fenêtre parce que il y a votre cas, mais j'en ai 10 cas comme ça. De chacun qui dit moi j'ai une très très bonne raison d'avoir une fenêtre qui soit différente. Donc on en a discuté tout à l'heure avec monsieur Brochard en disant non, on ne peut pas commencer à déroger pour chacun.
Nous, on fait un appel d'offres. Vous imaginez, parce que, alors on prend un cas, mais il y en a d'autres qui ont fait des demandes, etc. Si chacun commence à dire, moi, je voudrais que ma fenêtre ait une allège comme ça, moi, celle-là. Et alors, on va se retrouver avec des fenêtres de toutes les tailles. Le 1, sur le chantier, c'est ingérable. Et 2, au niveau des coûts. Hein, c'est-à-dire que quand on commande 30 fenêtres pareilles, hein, on ne les a pas au même prix que 30 fenêtres différentes. Hein, donc c'est vrai qu'on ne peut pas répondre à chacun.
Puis au niveau de l'esthétique du bâtiment
aussi. Après, il y a l'esthétique du bâtiment.
Il y a l'esthétique, mais il y a beaucoup l'économie, puisque dès le départ, on l'avait évoqué, l'histoire des menuiseries, en disant on essaie de rentrer dans des standards qui vont nous permettre que, économiquement, de pouvoir maîtriser cet aspect-là.
Là, on a peu de types de fenêtres.
C'est ça, c'est ce qu'on fait justement.
Voilà, c'est pour optimiser les coûts, on est obligé. Donc c'est vrai que la réponse, elle n'est pas pour vous, elle est d'une manière générale.
Oui, mais j'ai bien compris.
C'est, on ne peut pas à chaque fois faire un cas, on ne peut pas faire de cas particulier.
C'est pas une fois propriétaire, tu pourras changer ta fenêtre.
Ah non.
Non. Sauf que c'est un cas particulier, parce qu'on a bien accepté de mettre une porte.
Ce serait dans un immeuble, on peut pas.
Ah ben non, vous seriez obligé d'avoir l'accord de la copropriété, de demander à la ville de faire une déclaration préalable parce que vous modifiez les ouvertures. Au niveau de la réalisation technique, je ne dis pas à qui vous allez confier ça, mais quand c'est fait au point de départ, c'est contrôlé. Vous avez le bureau de contrôle, vous avez la maîtrise d'œuvre. Quand vous faites par vous-même, hein, vous en mettez à une
entreprise.
Le coût délirant,
c'est
plus une intervention sûrement par l'extérieur.
Il y avait une question sur les hôtes. Donc, il n'y a aucune hôte de prévue. Vous poserez chacun votre hôte. Donc, il n'est pas question de faire de sortie de hôte, hein, parce qu'on se retrouverait avec des milliards de conduits. C'est déjà assez compliqué comme ça. Donc, on ne peut pas faire de sortie de hôte en toiture. Hein, ça, c'est impossible. Donc, et les hôtes, ce sera des hôtes à recyclage. Hein. Par contre, il y a certainement possibilité, si vous les demandez, d'avoir la prise. Pour pouvoir installer la hotte. Hein. Donc ça, pour vous spécifier dans le plan d'électricité.
C'est pas pour être un peu en béton, mais il y a des questions sur structure ou pas?
Pas beaucoup. C'est vrai qu'au niveau structure, je suis désolée, mais oui, c'est vrai que là, on est rentré beaucoup dans le bâtiment.
Oui,
c'est
ça. Ouais. Il y a des questions enfin,
non. Non, je crois pas.
On peut disposer. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui a des questions par rapport au plan béton. Je pose quand même la question, on ne sait jamais.
Charpente, non, mais allez-y. De toute façon, on se revoit jeudi avec le bureau de contrôle, et là, nous, après, on parlera plus.
Très bien.
Et c'est vrai, je suis désolée, mais la réunion ne concerne pas énormément.
Oui,
Donc, il y avait des questions sur les arrivées, les lave-vaisselles. Donc, dans tous les logements, il y a une arrivée lave-vaisselle. Vous l'utilisez, vous ne l'utilisez pas, mais votre logement, il est à vous aujourd'hui, il sera à quelqu'un d'autre demain. Donc, il est dans tous les logements, il y a des lave-vaisselles. Par contre, il n'y a aucun lave-linge. Hein, pareil, vous me redites, hein, monsieur Prochard, mais on ne peut pas mettre dans un. Il y a une lingerie qui a été faite.
On avait adopté le principe de la lingerie, c'est un
voilà.
C'est une question qui a été posée d'ailleurs au moment de la
présentation. Au revoir. Donc il n'y aura pas de lave-linge particulier.
Et celui qui met un lave-linge à la place de son lave-vaisselle.
Moi je ne parle pas de matériel.
Ça fonctionnera.
Je ne parle que.
Ça marchera. Ah, c'est clair.
Vous avez une arme d'eau et une évacuation dans
chaque. Voilà, c'est ça. Après, en tant qu'usage, si vous voulez mettre un lave, bien sûr.
Si vous voulez mettre un lave-botte à la place.
On va faire court, on va dire qu'il y a une vidange, une alimentation d'eau pour un appareil qui va se
dans chaque cuisine, je vous en fais.
Et aujourd'hui, elles sont prévues dans la cuisine, effectivement.
Oui, ça fait du bruit pour les voisins.
J'avais une question qui était un tout petit peu peut-être technique aussi. Dans certains logements, il a été demandé de ne pas faire le PVC au sol dans les salles d'eau. Par contre, de garder la faïence. On peut. On fait la faïence avant, de toute façon, c'est pas grave. Hein.
Non, ça va.
D'accord.
Il n'y a pas de carrelage. Dans la salle de bain.
Ah non, c'est que du PVC, il n'y a aucun carrelage.
Non.
Hein, c'est faïence en mur dans les salles de bain.
Ah, et faïence sur 2 mètres de hauteur.
Voilà.
Ou je suis combien, 1m30, 1m50 au-dessus de l'aimoire. Et puis faïence au-dessus de
la boue.
Elle est blanche.
Et de hauteur
pour la douche.
2 mètres.
Ah.
Et Il y a une couleur, il y a quelque chose. Elle est blanche.
Justement, vous avez mis un, vous avez décrit un nuancier ou c'est systématiquement blanc?
Blanche.
Il n'y a pas un nuancier blanc, avec un petit panel de couleurs.
Donc,
parce que souvent on les demande, c'est pas plus
cher. Il peut y avoir un panel de couleurs.
Alors c'est sympa d'avoir un petit liseré quand même, d'avoir un. Non, tout blanc, tout blanc. Qu'est-ce que vous préférez, tout blanc?
Mais souvent dans les nuanciers, c'est pas des nuanciers qui sont hyper extravagants, mais il y a quand même dans les standards un certain nombre de couleurs qui permet que chacun puisse choisir sans faire un camailleux. Au moins essayer de.
On va pas faire.
C'est moi qui fais le chantier, j'assume la couleur.
Vous verrez avec Élise. Moi, je dirais que faire 17 salles de bain différentes. Chantier, elle s'en rendra compte quand on y sera. Ouais, ça va être extrêmement complexe. À mon avis, le carreleur ne sera pas d'accord. Hein, c'est-à-dire que les carreleurs, eux, quand ils font un chiffrage, donc, je vais même aller un petit peu plus loin. On va décider dès maintenant d'une règle par rapport à ça. Parce que le carreleur, faire 17 salles de bain différentes avec 17 calepinages différents, 17 couleurs différentes, vous comprenez bien qu'il ne va pas faire le même prix. Que faire 17 salles de bain blanches.
Mais c'est pour ça qu'il faut se mettre d'accord sur justement ne pas avoir des choses trop complexes, mais par contre éventuellement de laisser juste un choix sur une couleur par salle de bain.
Une bande de couleurs.
Un liseré par salle de bain. Donc vous vous mettiez d'accord sur quelle modénature de faïence serait acceptable pour tout le monde et auquel cas du coup on peut avoir un ajustement par appartement mais sur un point ponctuel, c'est-à-dire par exemple toute la faïence. Après vous choisissez chacun votre couleur ou alors si toute la faïence blanche avec un liseré, chacun choisit la couleur de son liseré. Vous comprenez ce que je veux dire?
Chacun peut choisir différemment.
Chacun peut choisir, mais il faut que vous soyez d'accord ce que vous avez, ce que vous pouvez choisir.
Il faut laisser blanche.
On va se mettre d'accord.
On s'est déjà posé plein de fois la question sur du logement. Cuisine, faut toujours laisser blanc. C'est trop difficile. De toute façon, même pour vous, dans une cuisine, un jour vous avez des meubles, puis quelques années après vous décidez de changer la couleur du canapé, puis alors du coup vous avez une faïence qui n'y a plus rien. À voir avec, non, en cuisine il faut toujours blanc. Ouais. Surtout c'est cuisine ouverte pour la plupart. C'est la semaine à la salle de bain, c'est vrai que c'est un peu différent. Je continue. Une question un peu récurrente sur les surchauffes de la façade ouest. Alors je vous rappelle que vous avez une coursive d'1,50 m devant vos fenêtres. Donc si un rayon de soleil rentre dans l'année, ce sera quand le soleil est vraiment très 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 bas, donc vraiment plus très 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 chaud, et il va rentrer un tout petit peu dans le logement. Mais de temps en temps dans l'année, quand il est vraiment très 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 bas. Alors maintenant, si vous voulez plus jamais que le soleil rentre chez vous, vous mettez à l'intérieur des stores comme ça dans votre déco. Mais nous, il est clair qu'avec 1,50 m de coursive, il n'y a pas de surchauffe.
Et au troisième étage?
Il y a un. Alors, on est même. Du fait de cette dalle en béton, vous allez voir jusqu'où ça va, nos histoires de coursives en béton, on est aussi arrivé. On avait prévu simplement des brise-soleil en haut, on va les couvrir pour protéger nos pieds de façade. Donc, ce sera. C'est pareil sur tous les étages.
Tu as une casquette.
Il y a une couverture.
Il y avait la couverture indiquée sur le premier dessin.
Une casquette béton.
Non.
Casquette aussi là.
Métal pour faire un peu de bruit. La casquette, on ne sait pas ce qu'il y a dessus. Mais...
C'est une casquette en bac à scie. Voilà, qui va venir comme ça, recouvrir le tout et protéger aussi, protéger de la pluie la façade comme sur le reste.
Bac à scie net ou avec un amortisseur de bruit?
Oui, parce que c'est très bruyant, bac à scie quand on dit ton nom.
Oui.
On en a sur le local poubelle, on en a sur le local vélo.
Non. Ça, vous n'allez rien entendre. Les logements sont vraiment étanches. À l'enveloppe de.
L'enveloppe des logements est quand même.
Elle est vraiment étanche, vous ne vous entendrez pas.
Hein. Oui. Oui. Non.
Et puis. Nous entendrons faire la porte.
C'est livré à les boulkettes.
On sera sous.
Parce qu'elle pensait.
Donc pour que le soleil arrive à vous gêner ici, compte tenu de tout ce que vous avez là, il faut vraiment qu'il soit rasant. Hein, donc les surchauffes, il n'y en aura pas. Ensuite, non, ça c'était les surchauffes en façade ouest.
C'est pas pour les pignons ?
Pour les pignons, les questions qui ont été posées par rapport aux pignons, donc aux pignons, on a prévu des stores extérieurs. Le store extérieur, il a l'avantage qu'il laisse la chaleur, il enlève. Il empêche la chaleur avant qu'elle soit rentrée. Les stores intérieurs comme ça, c'est bien pour la vue, mais par contre, au niveau de la chaleur rentre derrière le store et est déjà dedans, hein, donc on protège moins bien de la chaleur.
La question qui se posait, c'était la robustesse des stores extérieurs.
Alors, à quel niveau ?
La solidité,
la durabilité dans le temps par rapport à un volet roulant. C'est ça la question qui était posée.
Alors, la durabilité dans le temps, si c'est par rapport à la toile, les toiles, c'est des toiles qui sont... vous avez prévu quoi ? La toile screen ? Hein, donc, c'est des toiles qui sont c'est des PVC traités, tressés. Hein, c'est comme du rideau, mais simplement, au lieu que ce soit du film, c'est du PVC. Alors, la toile, elle est... C'est costaud.
C'est prévu pour être à l'extérieur, mais je pense que...
C'est prévu pour être à l'extérieur. C'est du gros vent.
Moins solide que...
Il est prévu sur des coulisses, hein, donc c'est-à-dire que ça descend sur des coulisses de part et d'autre. Hein. Par une grosse tempête, je ne vais pas le garantir. Je ne crois pas. Hein. Sur une grosse tempête, un très grand vent...
Il n'y a pas de soleil, donc on ne met pas.
Normalement, voilà.
Mais c'est ça.
Normalement, quand il y a une grosse tempête, il vaut mieux le relever. Alors, il y a des systèmes qui se font, qu'on fait souvent dans les bâtiments publics, qui sont avec un petit anémomètre, et puis quand il y a le grand vent, tout se relève. On le fait en bâtiment public, ça a un certain coût, et puis en plus, vous êtes là tout le temps pour le relever. A priori, si vous partez en vacances, vous ne le laissez pas fermer.
Hein, bon, voilà, les gens le font pour les vérandas, mais ils ne le font pas pour...
Ensuite, de toutes les autres demandes particulières, porte-vis dans la cuisine, rajouter des stores, des volets roulants supplémentaires, etc., etc., je pense que j'ai répondu à peu près à tout. C'est globalement aucune demande particulière parce que c'est trop compliqué, c'est du coût, c'est de la gestion, c'est tout ça, c'est pas trop gérable et puis c'est pas dans la logique de votre façon, de votre habitat, hein, on va dire. S'il y a vraiment des... Voilà,
j'ai une question.
Oui, au niveau du rez-de-chaussée, justement, pour protéger la fenêtre quand il y a beaucoup de vent, de pluie ou autre, est-ce que c'est possible, éventuellement, d'avoir des volets battants pour la porte-fenêtre
Alors, c'est pas possible parce que c'est pas dans la... Ça n'existe pas en façade, c'est pas donné au permis, puis on va pas mettre un volet battant sur tout un bâtiment. Hein. Comprenez, on est dans un grand bâtiment avec 17 logements. Ce bâtiment doit
être... Ça peut être fait après ou non? Parce que ça protège...
Vous savez que pour poser des volets battants, vous devez passer avec un permis à la mairie. Et à mon avis, l'architecte des bâtiments de France qui travaille sur ce projet ne sera pas d'accord. Et déjà, nous, en tant qu'architecte, si vous nous demandez à nous, on va vous dire non. Parce qu'à un moment donné, on ne met pas... Alors, les volets battants par grand vent, vous en avez déjà eu ? Les volets battants ? Ça protège la menuiserie. Alors, par contre, quand vous voulez les fermer, ils se rabattent hein, quand il y a beaucoup de vent, quand on ferme un volet roulant. Vous le prenez dans la figure, c'est ingérable, c'est inouvrable, c'est pas facile le volet battant.
C'est pas forcément les jours de tempête.
Vous avez des fenêtres de très grande qualité. Donc, tout ce qui est protection au vent, à la pluie, au bruit, à l'effraction, et tout ça, c'est géré par votre fenêtre de base. Hein, c'est des fenêtres de grande qualité. Les volets roulants, ils sont là pour du thermique et pour du noir. C'est-à-dire qu'on les a mis dans les chambres pour avoir du noir dans la chambre et pour le thermique dans la chambre. Mais c'est tout. Pour le reste, les volets roulants, pensez une chose, ne sert... Après, tout le reste, c'est psychologique. La fenêtre est bien meilleure. Vous avez des fenêtres en PVC ?
Oui, bah, un coup dedans et puis le PVC, ça serait pas...
Et votre volet roulant, il est en quoi ? Il est en PVC.
Non, mais volet battant.
Ah non, mais il n'y aura pas de volet battant.
Voilà. En fait, la logique, c'est plutôt de dire, en fait, la décision a été prise globalement dans des phases ultérieures. dans les phases précédentes plutôt, de ne pas mettre de volet sur les grandes baies. Donc c'est une décision qui a été prise de manière collégiale. Et donc c'est difficile de revenir sur une seule fenêtre, quoi. Si une décision devait être prise sur ce genre de choses, il faudrait que ce soit tout le monde qui se mette d'accord pour mettre des volets sur
De dire on change les volets roulants par des volets battants.
Non, il n'y a pas de volets roulants.
Non, il n'y a pas de volets.
Non, mais il avait été dit quand même très clairement qu'au rez-de-chaussée, il y aurait des volets roulants pour les baies du rez-de-chaussée. Ça avait été dit
d'accord.
À un moment donné.
Moi, pour moi, c'est pas quelque chose qui a été noté quelque part. Ça ne me dit rien. Donc, je ne sais pas si c'est.
Non, mais ça a été. Enfin, c'est quelque chose qui a été annoncé.
Ça a été évoqué, oui.
Mais je n'en vois pas l'intérêt.
Avec Marie-Pierre. Pour des raisons de sécurité.
Mais votre fenêtre est beaucoup plus sécurisée que votre volet roulant. Tout ce qui est sécurité thermique, on est bien d'accord, c'est la fenêtre qui le fait. Le volet roulant, on le met pour le noir.
De toute façon, on ne peut pas mettre le coffre à l'intérieur, vous avez la poutre.
Oui.
Déjà, hein, c'est ça.
Oui, c'est ça.
Donc là, on le voit le dessin.
Alors, si on veut
dormir
avec la fenêtre, la fenêtre ouverte l'été quand il fait chaud et qu'on veut aérer et récupérer l'air frais.
Dans toutes les chambres, il y a des volets roulants.
Oui, sauf nous au troisième, là, on n'a pas où on déplace notre fenêtre et elle se retrouve en face de la coursive sud. Ou bien on la laisse où on est, et là on a un store. Oui, on peut pas dormir avec la fenêtre grande ouverte parce qu'on a un petit bout de store.
Oui, mais j'ai pas de solution techniquement, c'est pas possible.
Moi, j'avais posé la question à Marie-Pierre parce que l'été, quand il fait chaud, j'ai déjà vécu dans un appartement est-ouest et l'air chaud qui rentre la nuit, on peut rafraîchir en ouvrant, en laissant la grande baie et les fenêtres de l'autre côté ouvertes. Ça rafraîchit l'appartement. Et je lui ai dit, est-ce qu'on pourrait pas avoir un volet coulissant, justement mais coulissant, peut-être à l'arbre ou autre comme ça, pour pouvoir avoir quand même de l'air frais qui rentre la nuit.
Après, c'est sans des avoir tout fermé, quoi. Qui sont en oscillobattant, hein, donc vous savez, vous les mettez juste comme ça.
Oui, c'est d'un côté.
Vraiment la nuit, c'est très bien.
C'est le passage d'air qui fait qu'il y a une aération. Mon oscillobattant ouvre, enfin, juste sur la façade est.
Vous en avez des deux côtés, les oscillobattants.
C'est ça, je
oscillobattant sur toutes les fenêtres.
Non, pas dans le séjour.
Toutes les fenêtres de chambre et toutes les fenêtres de cuisine.
Non, pas dans le séjour. Dans le séjour, j'ai une baie et un oscillobattant côté est.
Toutes les fenêtres sauf les porte-fenêtres.
Il n'y a qu'un côté. Donc, moi, j'avais posé la question à Marie-Pierre qui m'avait dit on peut peut-être envisager ce genre de choses. Donc, je repose la question.
Je reviens, on peut en discuter avec M. Rochard, parce que ce n'est pas moi qui prends toutes les décisions. Hein. Vous avez tous des demandes particulières chacun pour votre logement. Est-ce qu'on traite 17 demandes particulières pour chacun pour votre logement?
Non, j'ai répondu à ça.
Ou pas. Voilà.
Vous avez des cas particulières, c'est pour ça. Dans
votre
cas,
est-ce
que vous n'avez pas la possibilité d'avoir le volet roulant?
Ben oui, on a.
Non, c'est l'accroche de la terrasse.
Voilà, on a une fenêtre. Voilà, il y a un poteau qui passe là à l'angle de cette coursive. Donc, soit on déplace la fenêtre et on a un volet roulant, mais elle se trouve juste en face de la coursive et il n'y a pas de. Quand même là, un peu coincé. Soit on la laisse là et on a un petit store de.
Ah oui.
Voilà.
Donc, vous êtes dans une situation particulière.
Ce n'est plus de mon ressort,
c'est pas possible parce qu'il y a le poteau. Donc Marie-Pierre nous a dit que c'est pas possible d'avoir un volet roulant ici à cause du poteau.
D'accord.
Donc, soit on met là dans l'angle et il n'y a plus de lumière, soit on le laisse là et il n'y a qu'un store. Et un store, impossible de dormir à la fenêtre ouverte.
On trouve une solution.
Mais
là, on est dans un problème technique qui est lié à une situation particulière. Là, on a répondu de manière générale. En disant de manière générale, on est avec le volet roulant sur les chambres, avec. Donc, c'est le principe. Ici, on est sur un point dur, on est sur un point particulier.
Donc, du fait de ce problème particulier, on avait demandé à Marie-Pierre si c'était possible d'avoir des volets glissants.
Comme vous avez le poteau ici.
Mais oui, c'est ça. Parce qu'en fait, ces fenêtres-là, elles étaient toujours situées ici pour pas être dans la vue directe. Mais effectivement, ça... Mais oui, mais ça, c'est un point à traiter, mais c'est vrai pour tous les niveaux. On a le même problème à tous les niveaux. Oui, parce qu'on a la coursive à tous les niveaux.
On l'a pas au rez-de-chaussée, parce qu'au rez-de-chaussée, on est décalé.
Oui.
Donc on l'a ici. Mais ça, c'est quel niveau?
C'est deuxième.
Deuxième. Et au premier, vous devez l'avoir aussi.
C'est nous qui avons des questions.
Oui, mais parce qu'il y a des endroits, par exemple, ici, on est dans un séjour. Donc
ah oui, c'est un séjour, donc là, ça passe.
Qu'elle soit déplacée de 50 cm, ça n'a rien changé au projet. Donc au premier étage, c'est pas du tout parlant. Au deuxième étage...
Au deuxième, c'est problématique, on vient de le voir.
C'est quand il y a une chambre que c'est problématique.
Là, c'est problématique.
Donc au deuxième étage, le choix a été fait donc, par ces personnes-là de déplacer la fenêtre pour garder le volet roulant, mais c'est vrai que du coup la fenêtre se retrouve
dans la chambre.
Et au troisième étage,
oui, mais c'est pareil, les volets coulissants, c'est comme
troisième étage.
Tout à l'heure, on peut pas.
C'était non, on enlève le volet roulant pour ne pas déplacer la fenêtre. Donc c'est vrai qu'il y a sur toutes les autres, on l'avait sur plein. On l'avait sur cela. Il y avait un certain, il y en avait pas mal qui se retrouvaient, mais sur toutes les autres, j'ai envie de dire, le déplacement de 30, 50 cm de la fenêtre ne jouait pas. Sauf ici, parce qu'on se retrouve, c'est vrai, dans la prolongation, dans la
prolongation de la coursive. De la coursive et du coup, la fenêtre de la chambre n'est pas éclairée.
Donc il reste en fait.
Alors on va travailler ce point-là.
Voilà. Mais ce sera. Par contre, je pense qu'au niveau, on va dire, architectural, on ne peut pas venir avec des choses qui sont rapportées sur l'extérieur. Ouais. On ne peut pas venir tout d'un coup avec des volets à l'extérieur. Et ça peut se gérer que par l'intérieur. Ou dans l'épaisseur, où on pourrait avoir un store extérieur, comme on a en façade ouest, parce qu'il sera beaucoup moins épais qu'un volet roulant. Donc du coup, ça passera avec le...
Oui, mais du coup, le store extérieur, ça ne permet pas de laisser la fenêtre ouverte.
Alors, moi, je ne dors pas la fenêtre ouverte avec un store extérieur seulement. Ça, je ne dors pas. J'y arriverai pas.
Non, c'est pas pour la jambe de force, c'est la poutre.
Juste
la
le problème, c'est que
c'est la poutre qui rentre.
Si tu veux voler tu déplaces la fenêtre.
Et elle est à quelle hauteur, justement?
À un moment donné. C'est cette poutre ici. Alors, quand vous voyez le dessin, on se dit « Oh, mais miracle, mais ça pourrait passer. » Alors, le problème, c'est que si ça passe pas, pourquoi? Parce que un volet roulant et une poutre, à 5 mm près, vous les modifiez pas. Donc on ne peut pas se dire que ça peut rentrer un peu tassé. Alors, peut-être qu'au miracle, mais franchement, il y a 90% de chances que ça ne passe pas.
Il faut regarder précisément, parce que là on est sur une petite fenêtre, peut-être.
On n'est pas capable, de regarder précisément sans, avoir, sans être au
oui, d'accord. On l'a noté pour regarder ce point-là. Monsieur,
j'ai connu la réponse, mais je me dois de poser quand même une question. Je représente mon fils qui n'a, comme Henri, qu'à 35 mètres carrés. Or, il se trouve que dans le petit appartement qui est exigu, il y a le chauffe-eau en plein milieu d'une pièce, plein milieu. C'est pas esthétique, c'est pas très pratique. Et sur notre pièce, il y a le placard électrique en plein milieu. Pour habiller le petit appartement où chaque demi-mètre carré a son importance, question, peut-on déplacer le chauffe-eau? Deuxième question, peut-on déplacer le placard électrique?
Alors, je ne vais pas vous répondre là. Il y a des réunions individuelles qui ont été faites avec Marie-Pierre Bernard.
La réponse a été oui, peut-être on verra, mais jusqu'à quel moment, oui, peut-être on verra. Parce que si à un moment donné, vous me dites, parce qu'on n'a pas eu les mêmes réponses aux questions qui ont été posées à Marie-Pierre ici, il y a eu des petites différences. Donc pour l'instant, ça demeure un petit flou.
Vous êtes sur quel étage?
Rez-de-chaussée,
T4. Logement 4.
Logement 1. Logement 4. Nord-Sud.
À côté de la salle.
T4, c'est un T.
Nord-Sud.
Voilà. Le deuxième.
Celui qui est là.
Le placard électrique à gauche est un peu gênant.
Alors celui-là, il n'est pas du tout obligé de rester là. En fait, l'idée, c'était si il venait fermer un espace cuisine.
Non, on peut déplacer le placard électrique.
Mais si vous le déplacez, c'est maintenant.
Oui, ben, j'ai envoyé une proposition à Archiviolette il y a 3 jours.
Ah bah oui, mais nous, mais il y a
que non, non, mais, c'est pas non, mais comme j'ai pas la, non, mais, excusez-moi, comme j'ai pas la réponse d'Archiviolette. Non mais c'est normal que vous puissiez passer à la
Non, non, il peut d'ailleurs la question en face de la porte d'entrée. Ici, sur cette petite cloison. Alors, j'ai le cas dans un autre.
Ce qu'il faut, c'est que pour répondre à cette question-là, sans dire de bêtises, il faut regarder l'ensemble du plan de réseau. Parce que c'est ça les conséquences. Donc du coup, il faut que maintenant qu'on a vos éléments, on le redonne au bureau d'études Le Nélé, qui va regarder si c'est possible sans générer trop de...
Les GTL, ils peuvent être mis n'importe où dans l'appartement au niveau des gaines, parce que ça arrive par la dalle.
Il n'y a pas de souci.
Donc il n'y a pas de souci d'emplacement. Par contre, ils doivent être hors dans les règles d'accessibilité. On doit avoir devant la porte d'entrée un espace de manœuvre le jour où on rend l'appartement accessible. Donc le GTL, hein, vous voyez ici où la personne a demandé de mettre le GTL là, j'ai décalé la porte.
D'accord.
Parce que ça doit pouvoir être démontable et avoir mon espace de manœuvre devant la porte. D'accord, donc le GTL ne peut pas être devant la porte, il peut être à côté.
D'accord.
Alors on peut déplacer la porte pour mettre le GTL exactement comme c'est fait ici.
C'est-à-dire
que ici, si vous voulez mettre le GTL dans l'angle, on va déplacer la porte de la largeur du GTL.
Très bien, j'ai la réponse à la première question. Et c'est vrai que le chauffe-eau en plein milieu de la façade nord,
la
cuisine exiguë. La question qui avait été posée et la réponse est encore pas tellement nette et pas tellement tranchée. On souhaitait, en agrandissant le coin cuisine à gauche, déplacer le ballon dans la salle de bain. D'accord. Donc c'est techniquement possible.
Ici, vous voulez mettre la cloison de la salle de bain, donc c'est agrandir la salle de bain pour mettre le ballon dedans.
Oui. Savoir simplement.
Agrandir la salle de bain, je crois que c'est la cuisine.
Non, mais en fin de compte, on a agrandi quand même les deux, tu vois. Ça, c'est...
Par contre, ça réduit le coin cuisine. Non, je ne sais pas si c'est une bonne solution.
On arrive encore à... On a réussi à faire quoi, un PMR salle de bain avec un bon rayon de
raccordement. Parce que moi, j'ai des volumes de protection électrique et respectés dans la cuisine. Mais je saurais vous apporter une
solution. D'accord. Aucun problème. C'est simplement parce que pour 35 mètres carrés, chaque demi-mètre carré est quand même très, très important.
C'est logique.
Ouais.
Mais je vérifierai quand même qu'on respecte bien les volumes de protection et de sécurité.
Bah, je vous remercie.
Ça peut être ça, oui.
Ouais.
Ça peut être ça, mais moi je trouve qu'on bouffe un peu.
Par la place, quoi.
Bah, déjà,
et moi, que c'est ça la proposition.
Et déjà, on ouvre la porte de la salle de bain de côté.
Ah, mais je pensais que vous
aviez
de toute façon, oui, la porte de la salle de bain, normalement, elle se trouve
dans la salle de
bain. On ouvre la porte de la salle de bain de l'autre côté pour donner un peu de place.
Non, non, 2,50 mètres.
On va aller
pour
ajouter
la cuisine.
Bah oui, mais je vais dire.
Non, il n'y a pas de place.
On le regardera, mais c'est vrai que les temps qui sont arrivés il y a 2 jours, on n'a pas pu les réunir.
Non, je ne vais pas y aller que l'aspect pour la suite, mais ça, on peut voir.
Donc, est-ce qu'il y a encore des questions sans rentrer dans les logements particuliers, les questions générales. C'est pour voir un petit peu les pièces qui manquent, qui fait quoi, surtout les
on avait parlé.
Je pose des questions.
La chambre d'amis, la chambre d'amis,
oui.
Donc pour les sanitaires chambre d'amis, il nous faut de l'eau chaude dans la cuisine de la grande salle, et il nous faut de l'eau chaude pour la buanderie, et éventuellement même, c'est peut-être du luxe, pour l'atelier.
Alors la buanderie, je ne crois pas. Vous avez prévu
de mémoire, on a prévu
on
pour,
a de l'eau.
Donc pour la chambre, évidemment, pour la salle,
voilà.
C'est tout. Et donc vous avez prévu
la buanderie
un ballon pour la salle, dans le petit meuble que vous aviez, c'est un ballon de 30 mètres que vous aviez qu'on cache entre guillemets.
Ah oui, oui.
Pourquoi? Parce que si je fais une production centralisée, il faut respecter l'arrêté de 2007 concernant la légionnelle, et ça fait créer une usine à gaz. Donc les deux productions sont les plus petites possibles, voilà. Et vraiment à proximité immédiate des paysages. Donc un petit ballon sous l'évier dans la salle, qui vous permettra de faire des puisages, il se réchauffe très rapidement, et puis au moins il permet de consommer peu et d'avoir peu d'entretien. D'accord. Et un petit ballon, de mémoire, c'est 50 litres, dans la chambre pour alimenter la petite salle de bain.
Voilà.
Mais juste situé, alors de mémoire, il est en
mode. C'est quand même des espaces qui s'allient.
Ça reste
ponctuel. Je ne sais pas si la chambre elle va être utilisée tout le temps. Pas, la douche,
elle risque.
La douche, elle risque de ne pas être utilisée quand même.
Non, c'est clair, il y a moins d'utilisation. Alors, après, l'idée, c'était de se demander est-ce qu'on peut tirer de l'eau chaude. Parce que la buanderie, c'est quand même pratique.
Il n'y en a pas besoin. Dans la buanderie.
Pas besoin pour vous, j'avais dit.
Non, je ne sais pas.
Si vous voulez de l'eau chaude dans l'atelier, vous allez dans le sanitaire à côté.
Oui, voilà, on va me tirer un peu de cuir, on va vous remettre un robinet.
Si l'atelier
a le bar, le coco, la chambre, votre
lettre. Mais au-delà de la salle de bain,
parce que. Ah oui. Là, tu vois, comme prenez.
Et le ballon de la chambre est dans l'atelier. Donc, a priori, c'est possible d'avoir un puisage de choses dans l'atelier.
Juste à mettre
un
petit robinet.
L'atelier est
brûlé,
hein.
Puisque la dent, je suis dit, on va ramener. Ça
nous emmerde. Si on mettait sous l'escalier, plutôt.
En fait, mais il n'est pas isolé non plus.
Non, mais il n'est pas isolé non plus. Je ne sais pas pourquoi.
Moi, j'ai
l'air. C'est pas
l'escalier, on a une volée.
C'était la taille, la surface de la cuisine pour éviter que la salle passe en normes.
Ah oui. C'est moins de 50 mètres carrés, oui.
49 mètres. Parce que là, la cuisine sur le plan qu'on a, elle fait 7 mètres carrés, donc ça ne paraissait pas beaucoup par rapport.
Alors, en fait, vous allez la mettre. Nous, on l'a faite de façon à ce que ça, on passe dans la catégorie
c'est ça.
En dessous. Hein.
Ah oui, c'est ça.
C'est tout. Hein. Après,
donc, ça veut dire que 49 mètres carrés, c'est-à-dire que la cuisine en fait 14, quoi.
Voilà, c'est ça.
C'est ça.
Ah, c'est...
On vérifie la dimension.
Donc c'est pour ça que quand on a regardé ça tous les deux.
Ah non, mais dans le permis, dans le permis il y a les plans. Sachant que nous, dans ce qui est prévu de ce qu'on réalise, nous, c'est que ça soit l'évier. Et on avait dit une cloison pour porter le bas.
Oui.
Après, si vous ne voulez pas faire comme ça, vous ne faites pas cette cloison. Là, ça va sur
un. Ah, si, non. On fait un bar, on fait l'angle. Quoi. Dans notre réflexion actuelle.
Alors, continuez votre réflexion actuelle et puis donnez-la moi. Parce que c'est pas du tout ce que.
Justement, on peut projeter la cuisine.
Oui. Oui, voilà.
Ah, il n'y a pas le canapé.
L'idée, c'est de faire une cloison ici et une cloison ici, mais qui soit à mi-hauteur.
D'accord, alors que nous, en fait, on avait une cloison entière ici.
Entière ici et le bar ici.
Ouais.
Bon, on en décide. Faut qu'on en...
Oui, mais ça ne fait pas la surface.
Mais,
si, la surface, elle est bonne.
Elle est bonne. Le carré.
Non, dans ce qui reste.
Il y a 7 mètres carrés.
Ça
fait 7 là.
La cuisine. Il reste 49.
Ça fait 62. Elle fait 62 la
salle commune. 62, 63. Oui. Donc ça fait une cuisine de 14 mètres carrés.
Mais j'ai plus en tête le seuil.
Moi, je regarde.
Parce que l'idée, c'est que ça passe pas en air.
Oui,
justement.
Oui.
Mais j'ai plus en tête le seuil. Il faut que je.
C'est sûr que t'as en tête le cas.
C'est
ça,
c'est
ça,
ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est
ça, c'est ça,
c'est ça,
c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est
ça, c'est ça, c'est ça,
c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça,
c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est
ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça,
c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça,
c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça,
c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est
ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, dans la cuisine, pas dans la cuisine. Dans tout cas,
c'est mieux pour le champ.
Ce qu'on met un plafond acoustique. Ah, parce que dans une salle sans plafond acoustique.
Le sol de cuisine de la salle est
fait du garde-robe.
Et on peut faire une cloison à mi-hauteur.
Alors, ouais, je pense
oui, ça change rien en fait. C'est juste l'emprise.
À mi-hauteur, ça y est.
D'accord. C'est l'emprise de la cuisine.
Vous nous redites ce qu'on peut faire.
Oui.
Alors moi j'avais une question.
C'est compliqué,
Donc c'est compliqué. C'est que comment moi je me demande si on pourrait, si on serait autorisé à aller vous accompagner voir le bureau de contrôle par exemple. Alors simplement pour que le bureau de contrôle voit qui est la maîtrise d'usage.
Bah, vous venez, je vais vous répondre quelque chose. Croyez pas que c'est dur ou méchant ou quoi que ce soit. Je pense qu'ils s'en fichent complètement. Un bureau de contrôle est là pour contrôler qui que ce soit.
Excusez-moi. J'ai passé ma vie depuis 5 ans à dire au groupe ne prévoyons pas les réponses avant d'avoir posé les questions.
Venez
jeudi. Voyez ce que je veux dire.
Venez jeudi.
Donc je vais venir. Voilà.
C'est pas ça grand.
Non, mais ça remet personne en cause. C'est pas une intrusion.
Non, c'est juste une.
C'est pas de la rébellion, c'est pas ce qu'on veut, c'est qu'ils voient nos têtes. C'est tout. C'est un
alors, chez moi, c'est pas immense, venez pas à 10, hein.
Non.
Venez
non,
un ou deux, mais.
Un ou deux, mais tout à fait.
Voilà, mais il n'y a aucun problème, vous pouvez venir à toutes les réunions.
De façon à ce que ces gens-là comprennent qu'il existe une maîtrise d'usage.
Oui.
Parce qu'apparemment, ils n'ont pas compris encore.
Ah, si, je pense qu'ils. Parce qu'ils se font taper dessus, enfin, ils travaillent beaucoup pour des promoteurs, alors des gens qui ont plein d'argent et voilà, tout le monde. Donc c'est vrai qu'ils ont beaucoup de pression de la maîtrise d'ouvrage et de la maîtrise d'œuvre. Donc c'est leur quotidien aussi d'avoir les maîtres d'ouvrage au téléphone.
Oui, je dirais c'est une histoire de tournure quoi. Je crois que c'est très nouveau pour eux, ça on comprend pas parfaitement.
Mais je pense que pour eux, je reprends ce que j'ai dit.
Qui paraissent évidentes à nous et qui ne sont pas pour eux, c'est normal.
Eux, ils ne regardent, ils s'en fichent complètement de qui ils vont face. Et je parle de vous, mais de nous, du maître d'ouvrage qui travaille pour Camp Habitat, pour une petite commune, pour des privés, pour n'importe quoi. Ils s'en fichent. Ils n'ont qu'une seule chose, et c'est ce qu'on leur demande d'ailleurs. Ils n'ont que la règle. Ils ont leurs règles. Ils appliquent la règle.
C'est leur responsabilité en nominatif.
Comme les gendarmes.
Et c'est ce qu'on leur demande, c'est de surtout pas juger par rapport aux gens qu'ils ont en face.
On est bien d'accord, mais il y a, de toute façon, il n'y a pas de règle absolue. Il y a toujours des règles. Il peut y avoir des équivalences un peu à gauche, un peu à droite de la règle. Et je dirais, je pense que le fait de nous voir, on dira pas grand chose, parce qu'on est pas, on connaît rien, on n'est pas technique.
Non, mais en fait, c'est toi qui veux les voir.
Oui,
c'est toi qui veux leur tête.
Moi, j'ai envie d'y aller. Mais je veux dire, c'est de leur, voilà, de leur dire, tiens, il y a un paramètre. Voilà,
mais par contre, c'est vrai que la règle, c'est la règle, que le bureau de contrôle est là pour faire respecter la règle. Oui. Mais parfois, comme toutes les règles sont interprétables et les solutions qu'on peut trouver, elles peuvent venir de l'usage, moi, je trouve que effectivement, c'est bien d'échanger et que par parfois on trouve des solutions juste parce que on qualifie différemment une pièce, on qualifie différemment et des fois c'est qu'une question de mots, qu'une question donc si vous voulez venir c'est...
ça nous est pas venu à l'esprit parce que pour nous on est dans du technique, c'est vrai que c'est pas hyper passionnant mais il n'y a aucun problème.
Ça peut vous montrer la complexité effectivement du montage.
Ça permet, je dirais, par rapport au groupe qu'on représente, de faire de la pédagogie, quoi, de façon à ce qu'on comprenne nous.
Et ça vous permettra, vous, de restituer au groupe
la problématique.
Exactement. Dans ce sens-là, je suis
en train de toujours
vivre. Notre boulot principal, c'est de comprendre. C'est ça notre vrai boulot.
Et d'anticiper sur les problèmes à venir.
On se bat pour essayer de que vous n'ayez pas de problème derrière. C'est le drôle, c'est que le bâtiment il n'est pas de sinistre. Hein.
Le 10 aujourd'hui.
C'est le jeudi 16.
9h.
13 rue Georges Clémenceau.
Chez vous.
À Grand-Pierre. Vous êtes
déjà venu, ça. Non.
Bah, du coup, moi, je vais faire une voiture qui est partie du corps. Il va falloir qu'on.
Bah oui, faites-vous.
Ok, merci beaucoup.
J'avais une question, vous prêtez avec
moi. Il a été justement.
Ah oui, ça peut se faire.
Je vais le café.
Je vous remercie. Je retiens.
Est-ce qu'on peut faire un petit point? Il y a encore le temps? Non, ça devient chiant. Je vous envoie. On le fait par téléphone? Je le lis en deux secondes parce que c'est pareil, ça peut intéresser tout le monde. Il faut qu'on réfléchisse à la perméabilité à l'air. Donc il faut faire des tests. Moi j'aime bien qu'on choisisse très tôt cette personne qui vienne dès le début avec les entreprises leur faire un petit peu de formation. Donc il faut qu'on réfléchisse à combien de tests.
Vous êtes un appel d'offres. Vous êtes obligé de faire un appel d'offres ou c'est un appel d'offres?
Oui, mais déjà c'est prévu dans le marché.
Vous avez déjà quelqu'un qui fait la
Ah oui, à part du bureau de contrôle, parce que je me souviens quand c'était posé la question.
Oui,
que
c'est déjà prévu. Bon, je vais faire un point sur ce qui est prévu.
C'est surtout moi ce que je veux, c'est qu'on ait quelqu'un. Je pense que c'est dans un bâtiment comme ça, arriver une fois que tout est peint et faire le test et dire ça marche pas, c'est une catastrophe parce que après, quand il faut démonter, c'est pas trop.
On a dans le marché.
Il faut vraiment des tests. D'accord. La rédaction des pièces administratives, RC, ce serait bien de faire pas trop tard parce que c'est bien qu'on relise, qu'on réfléchisse aux critères. Hein, donc c'est vrai que moi j'aime bien qu'on ait
un.
Il faut qu'on ait toutes les pièces pour qu'on puisse.
Ça peut être
utile. Ah oui.
Est-ce que je me trompe ou est-ce qu'il y a deux tests dans le chantier?
En général, on en fait un intermédiaire, un final.
Voilà, nous ce qu'on voudrait, c'est qu'il y ait au moins un intermédiaire. Voilà. Le final, il est obligatoire, mais au moins un intermédiaire, qu'on puisse faire un test avant. Alors après, dans du logement, c'est pas un test,
c'est un certain nombre de logements, les plus défavorables. De mémoire, c'est ça. Je crois que c'est 3 logements.
Sur 17 logements,
c'est par 3
logements.
Ça doit être 3 ou 3 ou 4.
C'est ce qu'on avait prévu après.
Après, ils les prennent au pif.
Et surtout, pas les plus défavorables.
Ils ne regardent pas les citoyens qui risquent plus que nous.
Non, ils vont prendre. Le calcul n'est pas le même suivant que vous soyez dans un angle ou au milieu, etc. Donc ils vont prendre une diversité. Un au troisième, en bout, un au rez-de-chaussée, entre deux. Ils vont prendre des choses qui sont très différentes. Mais je disais ça un petit peu en rigolant, mais c'est vrai que sur les chantiers, il faut essayer que les entreprises ne soient pas au courant des logements qui vont être testés. Parce que voilà, on va finir ce logement-là parce qu'on va le tester. Alors celui-là, il est fait, nickel. Alors celui d'un côté. Donc il faut essayer justement de ne pas rentrer dans ça. Sur les branchements des réseaux, aujourd'hui, il n'y a rien sur le site. Donc il va peut-être falloir commencer à faire toutes les demandes de provisoires, etc.
Sur à propos de réseau, je ne sais pas si ça y a trait. On avait posé la question à un cas de savoir, comme la fibre optique arrive au bâtiment, ensuite elle n'est pas distribuée dans les logements.
Si, elle arrive dans tous les logements.
Ah, d'accord.
Je vois.
Ah, d'accord. C'était une option qui était relativement chère.
C'est passé obligatoire depuis très peu de temps, d'ailleurs.
Et du coup, après, c'était
uniquement le passage des fourreaux. Aujourd'hui, on va la monter dans les deux.
Ça veut dire qu'il faut qu'il
y a une prise fibre par le moment. Comment ça se passe?
On alimente la fibre dans la FTL.
Ouais.
Et puis, c'est tout.
Il n'y a pas la distribution dans le
logement.
Ça arrive dans la FTL, mais ce n'est pas distribué dans le logement.
Ça va quelque part à la prise d'RJ 45.
Alors, la GTL, après, irrigue tout le logement. Par contre, en général, l'intérêt de la fibre, c'est en général les gens qui ont une box. Et donc, il y a un gros débit jusqu'à la box, et puis après, vous pouvez alimenter la télé, ce que vous voulez. Et on va au-delà, enfin, on va au maximum aujourd'hui.
On n'a jamais eu de plan à
fibre.
Donc, depuis le début, on dit le terrain, globalement, est plat. Mais si, entre un bout et l'autre du terrain, on a 50 cm, on peut se retrouver quand même. On a un plan du géomètre. On a un plan du géomètre de...
Arpentage et topo.
Pas topo.
Non, il n'y a pas.
On l'a recherché l'un comme l'autre, hein, parce qu'on s'est posé la question ensemble.
Non, on a
un plan de géomètre. On a un plan de bornage très clair, etc. Mais il n'y a pas d'altimétrie. Il n'y a pas d'altimétrie dessus, et c'est vrai que...
C'est vrai que...
On n'a toujours pas de lumière à
l'extérieur. Non, vous faites avant.
Je ne suis pas très loin. On a fait un petit examen.
Parce que le problème, c'est que autant, c'est vrai que
non, le prix du foncier n'a toujours pas d'éléments.
Avant. Quand on n'a pas les fenêtres, quand on n'a pas le choix des fenêtres, quand on n'a pas tout ça, de faire de l'exé, on ne peut pas faire
de l'exé.
Je pense que celui-là, Kamel,
si tu veux, si tu veux, parce que c'est pas le moment, tu n'as pas mort. Je ne peux pas en PVC, puisque tu as pas mal de problèmes des 1 mètre. Vas-y, si tu es dit, il y a ça. T'as entendu ça, Olivier?
Si.
Ok.
Et en bois, tu aurais.
Ah bah oui, le bois, il résiste. C'est ce que j'ai dit à mon donné. Qu'est-ce qu'il reste comme matériel? Le bois.
Donc, l'exé, on ferait.
Non, l'acier.
On ferait l'exé fluide pour le DCE.
C'est pas évident, quoi.
Et par contre, l'exé structure en visa, parce que sans les entreprises, ça me paraît compliqué. Par contre, on oblige, donc il faut bien que vous le spécifiez dans le CCTP, il faut absolument que les entreprises soient au courant qu'ils ont un bureau d'études déjà désigné. Déjà...
Oui, tout à l'heure, il faut que je le change.
J'ai des bonnes questions, J'aurais dû essayer.
Ouais, ça a été fait depuis
2015. Mais non, je ne suis pas pionniste, mais c'est
financier.
Il y a eu un.
Ça a compliqué de passer dans une
époque. Oui, c'est peut-être ça.
Ça va prendre.
Dans les... Je continue parce que tout le monde est un peu pressé. Hein. Dans les pièces qu'on va avoir à joindre au DCE, qui sont pour nos pièces de dessin, etc., il faudra la RT 2012 remise à jour. Donc le plan de bornage altimétrique qui est OK. Les sondages de sol, on est OK. Le RICT du bureau de contrôle, le PGC du SPS. Le planning prévisionnel de l'OPC. Oui. Ensemble, si tu, je t'enverrai Mathieu, il faudra que tu viennes le faire avec Mathieu.
Voilà.
Il est assez bon là-dedans. Et puis, règlement de consultation, toutes les pièces, hein, que c'est vous qui les faites.
C'est notre service-là, je pense.
Nous, on aime bien les lire, la verbiance. Et donc, ça la liste des pièces. Si vous avez d'autres idées de ce qu'il y a à mettre hors de nos plans et tout ça, est-ce qu'il y a des choses qu'il faut mettre par rapport à l'association, par exemple? Non, les entreprises, c'est pas...
Ah oui, est-ce que dans l'appel d'offres, vous voulez mettre un descriptif de votre démarche, la charte ou quelque chose, pour que les entreprises soient au courant du...
Ah oui.
Ce serait peut-être intéressant.
Bien sûr. On fera un texte spécifique.
Donc on mettrait la charte de l'association.
Pas la charte, mais un texte de présentation.
Vous nous aviez donné à un moment donné, j'ai envie de dossier, un truc un peu rigolo avec des dessins et tout ça.
Oui, c'est la charte, sinon la
Il faut quelque chose qui soit visuel.
C'est bien.
Les entrepreneurs n'ont pas beaucoup de temps.
Il était super vendu.
Mais il est très sympa, monsieur Gaillet.
C'est l'estimation.
Ah bon, c'est agréable de travailler. Par contre, c'est vrai qu'il est.
Il est à l'écoute, il réfléchit
et même il propose. Qui est de plus en plus rare chez vous. Dans les jeunes, pas beaucoup. Mais oui, parce que lui, il est jeune, il est assez jeune, monsieur Gaillet, et il propose que dans les vieux, oui. Mais maintenant, dans les jeunes, souvent, même. Ils sont inexistants. Nous, souvent, on dit au même endroit.
On a raison sur le point.
Parce qu'on a besoin d'un bureau de contrôle. Et un bureau de contrôle qui dit oui à tout.
On a plus parlé d'écologie.
Ça peut être problématique.
Il y en a de plus en plus.
Oui, parce que moi, je suis
Et on se retrouve, comme on a été à la mission du logement, derrière les réalisations faites par la GDM, et derrière,
ça permet
il y aura toujours. Là, c'est pas chaud.
Vous nous distribuez des documents ou...
Moi, j'ai fait, il y en a un pour vous et un pour la même.
Vous avez copié.
Ah oui, non,
bonne lecture, surtout les 200 pages du site.
D'accord.
Ah, c'est que ça. Non, mais. Alors, non. En fait, c'est un plan général. Du coup, il faudra refaire des copies par. Peut-être par zone ou. Sinon, les sortir. Tout ça, c'est des plans de. De toute façon, c'est écrit dessus. Plan de structure fondation. Tous ceux qui sont notés. Oui, de toute façon, on va vous l'envoyer.
Oui. Et ça,
du coup, c'est le descriptif par lot. Donc, il y a des choses, peut-être, vous n'avez pas trop parlé dans les âges de béton et tout ça, mais par contre, il y a des choses importantes à regarder qui sont assez bien expliquées parce qu'il a mis des schémas sur le type de carrelage choisi, le type de sanitaire choisi. Voilà. Alors, donc, ça, c'est tous ces effets, sauf la plomberie et l'électricité. Ils sont à part, ils sont là.
Oui, d'accord.
Et après, sinon, c'est les plans.
J'ai déjà l'ancienne, une ancienne version de ça, oui. Merci. Tu préfères le prendre?
Non.